Voilà, c'est ça. Je vous explique donc la programmation pour ce soir. On va démarrer avec une conférence de Franck Celsis, qui est astrophysicien au laboratoire donc, de Bordeaux et spécialiste des exoplanètes, qui est totalement dans l'actualité avec la découverte, Franck, de Proxima B. Merci, voilà. Donc, je vais présenter Franck dans quelques secondes. Et donc, après cette petite conférence qui va durer environ entre 20 et 25 minutes, on va entamer donc un débat avec nos trois scientifiques présents ce soir, donc Franck, Roland Lehoucq, que je présenterai évidemment après, et Jean-Louis Rougeant, qui est un petit peu inconnu donc évidemment des conventions et du monde de la science-fiction, mais qui va nous parler donc du climat aussi. Voilà. Alors juste deux minutes, même pas. Franck Celsis est directeur de recherche au CNRS, donc à Bordeaux, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Il est astrophysicien et après une thèse à Bordeaux, il a eu des postes donc, en Espagne et aux États-Unis. Il a également travaillé au CNRS, donc à Lyon, à l'École normale supérieure. Et sa spécialité de recherche, ce sont les atmosphères et les exoplanètes. Et je vais tout de suite lui laisser la parole et il va vous présenter donc ce travail-là.
Merci beaucoup Natacha. Bonsoir à tous. Tous ceux que j'ai pas encore, avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter. C'est assez intimidant pour moi. Mes collègues, je les calcule. Mais la communauté de SF, que j'ai déjà un petit peu côtoyée, j'étais à Sevoix il y a quelques années. Et bon, c'est assez intimidant. Surtout qu'ayant participé hier aux étoiles de la SF, je sais qu'il y a parmi vous des mutants. Donc, voilà, donc je suis scientifique, mais alors, je suis aussi amateur de science-fiction. Alors ici, je suis un nain, mais dans mon laboratoire, je suis plutôt une référence, c'est sûr. On est toujours à la fois une brêle et un génie, hein, selon l'endroit où on est, mais ici, c'est plutôt la brêle, la science-fiction. Mais une approche qui m'intéresse, c'est quand même de se rendre compte que ce n'est pas des domaines complètement disjoints, la science et la science-fiction, et que, en particulier peut-être sur la question des exoplanètes, il y a des choses qui se recoupent, et notamment vous verrez que les exoplanètes, c'est à la fois fascinant parce qu'on explore des mondes nouveaux, mais c'est aussi très frustrant parce qu'on sait aujourd'hui pas grand chose sur ces planètes, et que donc on projette, on fantasme, et que finalement entre la couverture d'un pulp, d'un magazine pulp qu'apparemment certains ont identifié à au premier regard, donc c'est vous avez une référence précise
là, c'est dit. Mais il est paru en français dans un numéro de Sidéral.
Voilà, donc un des mutants.
C'est
le chef des mutants. D'accord. Et tout ça pour vous dire que, bon, voilà ce que dit la couverture, ah là là, une des deux terres est la vraie, une est la fausse, mais ce fantin de notre terre, ben on l'a aussi en fait dans le domaine scientifique et de la communication autour des sciences, puisque ce qu'on a ici, c'est la couverture d'une revue qui s'appelle Science, qui est avec la revue Nature, une deux revues phares de la science, qui un peu imposent leur loi dans le domaine scientifique. Et j'avais participé en 2014 à la découverte d'une exoplanète qui s'appelle Kepler-186f, qui était la première exoplanète de taille terrestre qui soit à température terrestre, qui était dans la fameuse, on en reviendra dessus, zone habitable. Et on ne peut pas parler de ça sans qu'il y ait forcément des représentations, des vues d'artistes, comme il y a ici. Alors, je vous montrerai après ce qu'on sait réellement de cette planète. Mais voilà, une revue scientifique va vous présenter, va vous montrer la découverte d'une exoplanète en vous montrant comme ça une planète avec des continents, des océans, des nuages. Vous verrez après que finalement, ce n'est pas grand-chose. Alors ça va au-delà même de faire une image, puisqu'on va vous faire un film. Donc vous avez ici, ça démarre. Vous avez le système de Kepler-186, qui est un système qui a au moins 5 planètes, qui sont représentées ici, là, sur leurs orbites, et la plus externe, qui tourne autour de son étoile en environ 120 jours, à la température terrestre, et fait à peu près un rayon terrestre. Et on a trouvé ces planètes-là par une méthode qui s'appelle les transits, c'est-à-dire que nous, observateurs, nous sommes dans le plan des orbites, et à chacune des orbites, les planètes passent devant leur étoile, et on voit la luminosité de l'étoile qui diminue un petit peu, donc il faut avoir du pot, il faut être bien orienté. Mais voilà, et alors ici, voilà, donc il y a des grandes calottes polaires, etc. Voilà. Ça, c'est l'imagerie. Alors, j'ai fait le jeu de chercher Kepler-186 sur Google, Kepler-186F, donc vous avez toute une imagerie, vous avez même
un peu en bas en droite, deux jumeaux qui se sont insérés dans la représentation comme ça. Alors je vais vous montrer ce qu'on sait de cette planète. Les données, c'est ça. Donc en bas, vous avez le temps. Vous avez le temps qui défile. Et en haut à gauche, vous avez une intensité. Alors ici, c'est donné en électrons par seconde. Mais grosso modo, c'est la luminosité de l'étoile qui est monitorée. Elle a été monitorée pendant 5 ans, cette étoile-là, comme des centaines de milliers d'autres en même temps. Et celle-là, tous les 120 jours, pour cette planète-là, parce qu'il y a toutes les autres planètes du système qui passent, tous les 120 jours, ça fait une petite baisse de luminosité. Alors on a tout replié à la période de la planète pour cumuler tous les transits sur la même figure, mais même en faisant ça, voilà, si vous n'avez pas derrière les outils de statistique bayésienne pour vous dire que ceci, cela, etc. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin, je vous parlerai de Proxima B, qui, si cette planète est confirmée, etc., elle offrira beaucoup plus de perspectives de caractérisation que celle-là qui est à 500 années-lumière et que j'aurais pas avant quelques dizaines d'années des choses plus sympas à vous montrer que ça. Donc pour vous dire quand même, faites attention, il y a un vrai décalage entre l'imagerie et c'est pour ça que finalement, voilà, on est aussi dans le fantasme un petit peu et dans l'espoir de voir quelque chose qui nous ressemble à nous. Donc hier, Natacha m'a demandé, ce qui n'était pas prévu au départ, de vous parler un peu d'exoplanètes. Donc je vais condenser un petit peu ce que je dis d'habitude. Mais une des grandes questions qu'on a quand on s'intéresse aux exoplanètes, c'est de savoir si, bien sûr, la Terre est quelque chose de générique, de commun ou de très rare. Et le système solaire dans son entier, est-ce que c'est un peu un archétype des systèmes planétaires ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt exceptionnel? Donc je vais essayer de vous parler de ça. Et donc pour parler de ça, il faut un petit peu repasser en revue le système solaire pour voir quelles sont ses caractéristiques. Alors c'est toujours difficile de le représenter parce qu'on a du mal à représenter à la fois les échelles de distance, les échelles de taille. Ça c'est un petit truc que j'ai fait moi, où j'ai essayé de respecter à la fois les distances et les tailles relatives, mais pas les deux entre eux. C'est-à-dire que si vous comparez les tailles du système solaire ici, c'est correct. Si vous comparez les distances au Soleil, c'est correct, mais les distances et les tailles des planètes, vous ne pouvez pas les comparer. Donc on a bien sûr donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, les planètes qu'on dit telluriques, les planètes de type terrestre, qui sont très proche du Soleil, et beaucoup plus loin, vous avez les géantes, donc les géantes gazeuses, que sont Jupiter et Saturne, et plus loin, les géantes glacées, que sont Uranus et Neptune. Voilà. Et donc, il y a deux caractéristiques essentielles du système solaire, que l'on pensait être un petit peu retrouvées ailleurs, qui nous semblaient des étalons, et qu'on a un petit peu essayé d'expliquer par la théorie au cours des années, c'est que d'une part, les petites planètes telluriques sont proches de leur étoile, et que beaucoup plus loin, parce qu'en fait, il y a un saut en distance, et Jupiter est à 5 fois la distance Terre-Soleil, Saturne 10 fois, ensuite Uranus 20 fois, Neptune 30 fois, donc beaucoup plus loin, on a les géants, et qu'il faut expliquer cette dichotomie. Donc pour les tailles, on peut les voir ici, donc vous avez les géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et puis dessous vous avez à la fois des planètes telluriques et des satellites des planètes géantes, et on voit bien qu'il y a une vraie dichotomie de taille. Donc ça c'était le point de départ, est-ce qu'on voit ça ailleurs, c'est la question. Alors je vais passer très vite sur les méthodes de détection, juste pour vous dire que grosso modo, les deux méthodes principales pour trouver les exoplanètes, elles sont illustrées par ce diagramme. Soit il y a celle que je vous ai dit avant, on a la chance, c'est très rare, mais il faut observer énormément d'étoiles pour pouvoir en trouver. C'est quand on est, nous, observateurs, dans le plan orbital du système qu'on regarde, et que du coup, à chaque période orbitale, la planète vient cacher une partie du disque, fait une éclipse, et on enregistre ces baisses de luminosité apparente, périodiques, on trouve les planètes comme ça. Mais il y a une autre façon, c'est comme ça, par exemple, que Proxima B a été trouvée, c'est en arriver à repérer le mouvement orbital de l'étoile. C'est-à-dire que là, vous savez tous que les planètes tournent autour des étoiles, en fait c'est un petit peu un raccourci. Les planètes et les étoiles tournent autour du centre de masse du système, du barycentre du système. Alors la planète a un mouvement très très large, et l'étoile qui domine un tout petit mouvement autour de ce centre de masse, néanmoins il existe, et on peut notamment le repérer en mesurant la vitesse de l'étoile, avec une précision assez diabolique, puisqu'on arrive à aller à quelques dizaines de centimètres par seconde, donc quelqu'un qui marche lentement, c'est la précision qu'on a sur la vitesse des étoiles, et donc on peut voir ce mouvement orbital lié à la présence d'une ou de plusieurs planètes. Donc c'est tout ce que je dirais sur les méthodes de détection, parce que je vais faire vite, et on va plutôt passer à la zoologie des systèmes exoplanétaires et des exoplanètes, donc qui sont tous rassemblés sur ce diagramme, enfin une grande partie en tout cas des planètes détectées. Donc plutôt que de vous les donner en distance à leur étoile, je les ai données en quantité d'énergie qu'elles reçoivent de leur étoile. J'aurais pu mettre une échelle de température aussi. Donc en bas, sur l'échelle du bas, quand vous avez 1, c'est la quantité de lumière, d'énergie lumineuse que la Terre reçoit du Soleil, et vous avez à gauche 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est le rayon de la planète. Donc j'ai mis certaines des planètes du système solaire que je pouvais mettre sur ce graphe, et on voit déjà une première chose, c'est que elles sont toutes beaucoup plus chaudes, la grande majorité sont beaucoup plus chaudes que les planètes du système solaire. C'est parce que nos méthodes de détection sont biaisées et on voit beaucoup plus facilement des planètes qui sont proches de leur étoile que les autres. Donc en fait, on a un énorme biais observationnel. On n'a pas une représentation, si vous voulez, exhaustive de la population, mais ça existe quand même. Et si vous voulez, une des raisons pour lesquelles on a mis du temps à démarrer la recherche des exoplanétaires, c'est parce que comme on basait tout sur l'archétype système solaire, tout ça n'était pas censé exister, puisque dans le système solaire, il n'y a rien en deçà de l'orbite de Mercure, et voilà, il n'y avait rien à trouver. C'est-à-dire que si vous regardez bien ce diagramme, il n'y a pas de point au niveau de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et il n'y a pas de point là-dessus quasiment au niveau de Mars, de la Terre ou de Vénus, parce qu'on n'est pas capable, on commence, mais on était jusqu'à très peu de temps, pas capable de détecter des analogues des planètes du système solaire. Mais la nature étant bien faite, elle a jalonné notre exploration de planètes qui n'ont rien à voir avec les planètes du système solaire et qui nous ont permis ces détections parce que justement elles sont différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de ça? On verra un petit peu en fait les différentes catégories. Donc les premières exoplanètes qui ont été trouvées, elles sont de la taille de Jupiter, vous voyez, elles sont en haut, à gauche, elles sont beaucoup plus chaudes, on appelle ça des Jupiters chauds. C'est la première des populations qui a été trouvée, on verra après que c'est la plus rare qu'on rencontre, mais elle est tellement facile à trouver que ça a été les premières. Et il y a une chose qu'on ne voit pas du tout dans le système solaire, c'est que dans le système solaire, donc, on a, souvenez-vous, on avait à la fois cette dichotomie de distance et de taille. Donc on trouve des Jupiters très proches de leur étoile, première chose, donc il n'y a pas de règle avec le fait d'avoir une planète tellement proche. Et vous voyez que, alors que dans le système solaire, il n'y a pas de planète en taille ou en masse entre la Terre et Neptune et Uranus, entre une fois et quatre fois le rayon de la Terre, ou entre une fois et 15 fois la masse de la Terre, il n'y a pas de planète. Donc nous, ça, les chercheurs en astrophysique, ça nous a stimulé, on essaie de comprendre, ça n'y a rien à comprendre, ça existe. En fait, on va voir après, c'est la majorité des planètes dans l'univers, en tout cas dans notre galaxie, la majorité des planètes sont d'une masse intermédiaire entre la masse de la Terre et la masse de la Neptune. On ne sait pas comment les appeler parce qu'on n'a pas d'analogue. Alors on dit des super-Terres, ce qui est très maladroit, bien sûr, vous imaginez médiatiquement ce que ça a, c'est appelé de Superman, c'est ce que vous voulez, mais c'est juste plus gros que la Terre, alors on pourrait dire des mini-Neptunes, et en fait, il y a une population intermédiaire. En tout cas, il n'y a pas cette dichotomie, et il n'y a pas cette dichotomie de distance, puisqu'en fait, tous les systèmes exoplanétaires qu'on connaît, ils sont globalement beaucoup plus chauds que la Terre. Donc ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on est capable de voir aujourd'hui, mais ça existe en tout cas. Donc déjà, première chose, est-ce que la dichotomie de taille tellurique géante, on la retrouve dans les systèmes exoplanétaires? Non, il y a du tout, tout existe, et le système solaire n'impose aucune, enfin, ne retrouve pas les règles d'agencement du système solaire dans la population des systèmes planétaires. Donc les planètes, on les trouve généralement par groupe. Donc voilà une petite illustration, un petit film. J'ai pas mis, mais il y a peut-être le son, ouais. Non, il sort de mon ordi, là, non? Donc ce qui est, on voit pas très bien ici, mais en fait c'est un collègue américain qui s'appelle Dan Fabricki qui a représenté tous les systèmes exoplanétaires connus. Alors les comparons au système solaire, on voit pas très bien le système solaire ici, mais ce sont tous les systèmes, c'est juste pour voilà, moi je suis né dans un système planétaire, il n'y avait qu'un 8 planètes, maintenant des systèmes planétaires avec plusieurs planètes, jusqu'à 6 planètes, ils peuvent en avoir plus, mais on en a détecté jusqu'à 6 dans un même système, il y en a plein. Donc juste pour, voilà, ce que les auteurs de science-fiction avaient imaginé, ils avaient raison, oui, il y en a plein, il y en a partout, mais il y a une grande diversité. Alors, on va en regarder quelques-uns pour justement des caractères un peu étonnants. Ici, ce système Kepler-11, il a 6 planètes qui sont toutes, grosso modo, à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Si on comparait au système solaire, vous avez 6 planètes qui font entre 2 et 15 fois la masse de la Terre. 6 planètes comme ça, en pack entre leur étoile et l'orbite de Mercure, et ça marche très bien, ça fonctionne très bien, c'est stable. Si effectivement on les met dans une simulation numérique tout simple avec la gravité, ça, c'est stable. Et la seule chose, c'est qu'en fait ce sont des planètes qui interagissent pas mal entre elles, et ces interactions on les voit parce que les transits n'arrivent pas toujours de façon périodique. Et en fait, en regardant ces écarts aux orbites keplériennes de planètes isolées, on peut contraint dans les masses des planètes dans ce système-là. Donc c'est bien une réalité, c'est pas quelque chose qu'on pourrait mal interpréter comme un système planétaire. On voit vraiment le détail des interactions entre planètes, c'est un vrai truc. Il y a des systèmes à la Tatooine, donc en fait on a une étoile binaire, donc deux étoiles très proches l'une de l'autre, qui orbitent très proches l'une de l'autre, et plus loin au-delà, une planète qui fait une orbite assez large autour des deux, et donc on a ces deux étoiles, comme celle que regarde la Luke Skywalker, qui se suivent dans leur parcours dans le ciel, et on peut très bien, c'est le cas de Kepler-16b, avoir une étoile de type solaire avec une naine rouge, et faire ce genre de paysage. Ça existe, c'est assez joli, pareil, c'est bien, bon, là, vous voyez sûrement pas très bien, voilà un certain nombre de systèmes circumbinaires. Alors, circumbinaire ici, ce qu'on appelle le type P, c'est quand en fait la planète est autour de la binaire, on verra qu'il y a un autre type. Et ça marche très bien, d'ailleurs on peut montrer par théorie que plus trop près d'une certaine distance, les planètes ne sont pas stables, et on ne trouve pas effectivement de planète plus près que cette distance. Après il y a un autre type de binaire où les deux étoiles sont très séparées l'une de l'autre, et chacune peut avoir son cortège de planètes. Il y a environ 70 systèmes connus. Après il ne faut pas que le système soit trop serré, hein, on en connaît très peu, avec moins qu'environ 50 unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Généralement, quand les deux étoiles sont trop proches, on peut avoir une planète autour des deux, mais ça devient difficile à chacune d'entre elles d'avoir son cortège de planètes. Alors, je vais passer très vite, simplement vous dire qu'au-delà de la simple détection, on commence à pouvoir caractériser les atmosphères. Je vais passer vite, c'est un peu un diagramme un peu scientifique, mais on arrive, quand la planète passe devant l'étoile, à voir la façon dont elle absorbe le rayonnement de l'étoile, on arrive à caractériser l'atmosphère, et en fait, dans son parcours autour de l'étoile, comme elle disparaît pour les planètes qui transitent, comme elle disparaît derrière l'étoile, de temps en temps, on a la référence étoile seule, et la modulation qui s'ensuit, c'est la contribution de la planète. C'est-à-dire le fait d'éteindre à un moment donné la planète, par différence, on sait quelle est l'émission ou la réflexion de la planète, et on peut faire un spectre de cette différence, et arriver à voir, donc ça a été fait pour une même planète. On a le spectre en transmission, où on a la signature notamment de la vapeur d'eau. C'est une planète très chaude ici, c'est un Jupiter chaud, qui doit être à peu près à 2000 degrés. Et on arrive à avoir, on commence à faire de la spectroscopie, qui est l'outil de base de l'astrophysique pour caractériser les planètes. Alors je vais vous dire deux, trois mots sur un terme qui revient assez souvent, qui est la zone habitable, qui est un terme très très mal nommé, mais on continue d'utiliser pour diverses raisons. Et j'ai trouvé en fait... je ne sais pas si on va entendre. Tout à l'heure, quand j'ai mis le son, ça sortait quelque part ou non, c'était juste mon ordinateur?
Non,
qu'est-ce que je peux faire?
Ça
marchait avec le micro.
Pas
tout
la recette.
Donc en fait, j'ai trouvé un film où. Un film très con, mais. Où la zone habitable est définie. Ça s'appelle Battleship, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ah ouais!
Je n'ai pas tout vu.
Un planète too far away from its sun, it's too cold. If it's too close to its sun, it's too hot. But for an Earth-like planet, the distance is just right, potentially perfect for sustaining life.
Voilà. Donc Hollywood, faisant de l'astrophysique, alors ça peut être que vrai, vous avez vu tous les petits diagrammes et tout, sur les planètes, c'est forcément vrai. Donc en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est la question, quelle est la quantité de flux lumineux que peut recevoir une planète, tout en ayant, par exemple, des océans à la surface, de l'eau liquide. Si vous la mettez trop près, ça ne peut être que vaporisé. Et si vous mettez trop loin, ben, ça ne peut être que glacé. Et il y a une gamme de distance, et pour ça, il faut passer par des modèles climatiques. Et vous avez ici un exemple de simulation de la Terre, où là, on ne s'intéresse pas juste à des réchauffements climatiques, je n'allais pas dire mineurs, parce que quand même, on va voir que c'est un problème majeur pour nous, mais disons que là, l'idée, c'est, voilà, on booste le rayonnement, et en fait, la question, c'est jusqu'où on pourrait mettre la Terre sans évaporer les océans. Et avant, en fait, avant d'utiliser ces modèles 3D, on utilisait des modèles 1D, juste une colonne atmosphérique qui est censée représenter les caractéristiques moyennes de la Terre. Et on a beaucoup de mal, notamment, à faire les nuages, parce que les nuages, c'est par essence un truc très 3D, quoi. Et en fait, on trouvait qu'on était vraiment au bord de la zone habitable. Et comme, en plus, la luminosité du Soleil augmente, ça veut dire que si le bord de la zone habitable était à 0,99 fois la distance actuelle de la Terre, ça veut dire que dans 100 millions d'années, bye bye les océans, on peut aller ailleurs. Alors, on gagne un peu en faisant la modélisation plus poussée avec des modèles 3D. Si on se rapproche à d'à peu près 5%, la Terre perd ses océans. Voilà. Donc on n'est quand même pas très loin, et au lieu de se passer dans 100 millions d'années, ça va peut-être se passer dans 600 millions d'années. Et alors l'autre question, c'est l'expérience de pensée. Si je prends la Terre et que je la mets plus loin, qu'est-ce qui se passe? Alors on l'a fait, cette expérience, si vous prenez la Terre et que vous la mettez plus loin, elle gèle. Si je la prends, je la mets 10%, 20% plus loin, elle gèle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'il faut savoir que sur Terre, on a un gaz à effet de serre qui s'appelle le dioxyde de carbone, qui est émis par les volcans, et il fait que se passer dans l'atmosphère. Il se dissout dans les océans sous forme d'acide carbonique, il réagit avec sodium, magnésium, fer, etc. Il forme des minéraux qu'on appelle les carbonates. Donc il y a un cycle, qu'on appelle le cycle des carbonates silicates, qui fonctionne sur le long terme. Ce n'est pas ça qui va nous sauver du réchauffement climatique. Mais sur le très long terme, si pour une raison ou une autre, la Terre gèle, ce qui est arrivé 4-5 fois dans l'histoire de la Terre, on appelle ça la Terre boule de neige, si vous gelez la Terre, eh bien, ce cycle il est cassé et le CO2 ne fait que s'accumuler dans l'atmosphère. Et comme c'est un gaz à effet de serre, ça fait un thermostat. C'est-à-dire que si je prends la Terre et je la mets 10% plus loin, elle gèle, il fait moins 60 sur toute la planète, mais j'attends 1 million d'années et j'ai à nouveau la bonne température avec de l'eau liquide. Simplement, j'aurai beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Si je mets la Terre à niveau de Mars, j'aurai 1 bar, une fois la pression atmosphérique, de dioxyde de carbone, mais ça marche.
Je suis 1 bar, ça va.
Comment ?
Je suis 1 bar,
ça va. Ouais, mais le CO2. Ah, on va tout avoir. Quand ça fermente et que ça fait du CO2, il y a des gens qui sont morts asphyxiés comme ça. Donc pour le système solaire, cette fameuse zone habitable, elle commence à peu près entre la Terre et Vénus, et elle finit un petit peu au-delà de Mars, mais la luminosité du Soleil a augmenté au cours de son histoire. Ce qui est fascinant, c'est qu'au début de l'histoire du Soleil, en fait, Vénus était peut-être à l'intérieur, donc Vénus pouvait avoir des océans liquides qui ont été évaporés puis perdus. Et une grande question, c'est Mars, parce que Mars, les modèles théoriques le placeraient plutôt en dehors, mais il y a des preuves de la présence d'eau liquide. Donc une des grandes questions pour Mars, c'est est-ce que cette eau qui a laissé des traces sur Mars, est-ce qu'elle a été là de façon très sporadique, il y a des impacts, il y a des grands mouvements géologiques, ou est-ce qu'elle était, c'était vraiment un climat stable? On n'a pas la réponse aujourd'hui, en tout cas, les modèles ne permettent pas d'expliquer, il y a 4 milliards d'années, des lacs, des mers sur Mars, ça ne marche pas. Voilà. Et donc dans le futur, par contre, voilà, comme je vous disais, la Terre elle va sortir, alors Mars sera bien au milieu, mais Mars a plus de flotte, plus de gaz, donc il ne se passera rien de spécial sur Mars. Donc je fais juste un petit peu, une des grandes questions, une des grandes découvertes, c'est pas vraiment une découverte, mais une des grandes avancées, c'est de savoir maintenant, au moins pour les planètes qu'on peut détecter, quelle fraction des étoiles en ont. Donc la question de la pluralité des mondes, voilà, moi quand j'ai commencé l'astrophysique, on ne savait pas si... dans la galaxie qui contient 200 milliards d'étoiles, il allait y avoir 3 planètes ou 200 milliards. Maintenant, on en sait un peu plus. Donc, comme je vous l'ai dit, les premières planètes qu'on a trouvées, ce sont des Jupiters chauds, des Jupiters qui tournent en quelques jours autour de leur étoile, qui sont à environ 4-5% de la distance Terre-Soleil de leur étoile. C'était les plus faciles, c'était le top de l'iceberg, la partie émergée, mais c'est relativement rare, c'est à peu près une étoile sur 200 qui a un Jupiter chaud. Une étoile sur 200. Les Jupiters analogues du nôtre, les planètes géantes qui sont plus loin disons que la distance Terre-Soleil, c'est plus commun, mais c'est de l'ordre de 10% à peu près, 10% des étoiles qui ont un Jupiter, un analogue du Jupiter. Si on rajoute à ça un ingrédient, qui est que, en fait, si on regarde l'ellipticité, l'excentricité des orbites, et qu'on regarde les planètes géantes dans notre galaxie, celles qu'on peut observer, la plupart de ces planètes géantes-là ont des orbites très elliptiques, ce qui n'est pas le cas de Jupiter. Jupiter a une très faible ellipticité, c'est quasiment circulaire. Donc, si on réduit le système solaire à sa composante principale, qui est Jupiter, qui fait plus que la masse que toutes les autres planètes réunies, qui fait 300 fois la masse de la Terre, qui mène la danse dans le système solaire, qui a contrôlé la distribution des solides, la distribution de l'eau dans le système solaire, donc c'est quand même quelque chose d'important pour l'histoire du système solaire, en fait, c'est une étoile sur 1000 qui a quelque chose qui ressemble un peu à Jupiter. Ça fait encore beaucoup, ça fait quand même 2 milliards d'étoiles. Alors, cette population de planètes que j'ai appelées super-Terre, qui font entre la masse de la Terre et la masse de Neptune, on les trouve autour de plus de 1 étoile sur 2. Plus de 1 étoile sur 2 à plusieurs super-Terres très chaudes, généralement, en tout cas celles qu'on arrive à trouver aujourd'hui, très très chaudes, et qui sont généralement chapelées de 2, 3, 4, 5, comme ça. Et ça, c'est plus de 1 étoile sur 2. Pourquoi il n'y en a pas dans le système solaire? On ne sait pas. On pense que c'est parce que, justement, dans le système solaire, il y a Jupiter qui a empêché la formation de ça, et c'est vrai que les systèmes qui ont des super-terres, généralement, n'ont pas de planètes géantes associées. Alors, la grande question, c'est et les planètes telluriques. Donc, les planètes telluriques, on va distinguer deux types d'étoiles. On va commencer par les étoiles de type solaire. Les étoiles de type solaire ont typiquement... alors, c'est des limites inférieures, parce qu'on n'est pas capable de toutes les détecter, mais elles ont au moins, on va dire... alors, à température terrestre, au moins 5 à 10% des étoiles ont une Terre à température globalement terrestre dans cette fameuse zone d'étoiles. C'est une limite inférieure, il peut y en avoir beaucoup plus. Si on va maintenant vers les étoiles M, ce qui sont les naines rouges, les petites étoiles qui font moins de la moitié de la masse du Soleil, qui sont la majorité des étoiles dans la galaxie, eh bien, en moyenne, une étoile M prise au hasard dans la galaxie, elle a environ 1,5 planètes telluriques. C'est énorme. La nature ne sait pas former des étoiles, en tout cas ce type d'étoiles, sans leur donner un cortège de planètes. C'est vraiment une des conséquences systématiques de la formation stellaire. Et de ces planètes telluriques, celles qui sont à la bonne température, on va dire c'est au moins 25-30%. Donc c'est un nombre prodigieux de planètes qui partagent au moins avec la Terre leur masse et, on va dire, la quantité d'énergie qu'elles reçoivent de leur étoile. Voilà. Après, elles ont des caractéristiques, excusez-moi, j'ai passé un peu vite, mais elles ont des caractéristiques différentes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une luminosité qui augmente, elles ont une luminosité qui diminue au cours du temps, surtout au début de leur vie. Donc si on trouve une planète dans la zone habitable d'une étoile M, d'une naine rouge, ça veut dire que dans le passé, elle a été plus chaude. Donc ça, on ne sait pas dire ce que ça fait. On ne sait pas si ça reste habitable quand ça a été Vénus pendant 200 millions d'années et que ça entre dans la zone habitable. Nous, on est entré par le côté froid, sur ces étoiles-là, elles entrent par le côté chaud. Et donc, je vais prendre un cas particulier, si j'ai encore du temps, je ne sais pas combien j'ai parlé, ça fait déjà pas mal.
Oui, ça fait le temps, mais vas-y.
Je finis sur Proxima B parce que vous en avez entendu parler. Et puis aussi parce que Alpha du Centaure, c'est quelque chose qui a quand même alimenté pas mal la science-fiction. Donc moi, je me souviens très bien de Destination Centaure, où les colons arrivent, en fait, après des siècles sur Alpha du Centaure, mais le temps qu'ils voyagent, ça a déjà été colonisé par des vaisseaux plus rapides. C'était rigolo, ça. Agaçant. On arrive, il y a déjà des filles attendantes. Voilà. Tu as des statues, mais tu n'as rien découvert. Et donc, c'est quoi Alpha du Centaure? C'est le système stellaire le plus proche de nous. Et il est constitué de 3 étoiles. Il y a 2 étoiles qui sont Alpha du Centaure A et B, qui sont ici à gauche, qui sont des étoiles de type solaire, assez proches du Soleil, qui sont très proches l'une de l'autre. Elles sont séparées à peu près de la distance Soleil-Neptune. Elles orbitent l'une autour de l'autre. Voilà. Et l'autre, la C, qu'on appelle Proxima, c'est une naine rouge, et elle est à 15 000 fois la distance Terre-Soleil, elle est beaucoup plus loin. En fait, c'est quasiment une étoile seule, tellement elle est loin des deux autres. Et c'est autour de Proxima, de Alpha du Centaure C, donc actuellement la plus proche étoile du Soleil, qu'on a trouvé il y a quelques mois, et ça a été annoncé il y a 2 jours, le signal d'une planète. Alors à nouveau, je reviens, je prends des gants. Voilà, si vous cherchez Proxima C, la planète, enfin, Proxima B, du coup, B étant, vous allez trouver ça. Voilà, tout ce qu'on a sur cette planète, c'est ça. C'est-à-dire, on enregistre en fait la vitesse de l'étoile et on fait ce qu'on appelle un périodogramme, une transformée de Fourier. Il y a une fréquence qui sort en 1,2 jours et l'amplitude du signal nous donne la masse minimale de la planète qui est 1,3 masse terrestre. Et ce qu'on sait d'autre, c'est que si elle est réelle, qu'elle orbite vraiment autour de Proxima en 11 jours, elle reçoit à peu près 70% de ce que la Terre reçoit du Soleil. Et sachant que la Terre réfléchit 30% parce qu'on a une étoile jaune, et donc on réfléchit le bleu qui est le bleu du ciel, Proxima, elle ne réfléchit rien, donc elle reçoit à peu près, si on lui mettait l'atmosphère de la Terre, on a à peu près la même chose. Alors voilà juste une vue d'Alpha du Centaure qui est pas visible dans notre ciel, qui est dans le ciel austral. Et vous avez ici un gros zoom sur les... parce qu'elles sont, très proches, donc en fait ça fait juste un point... Et voilà un zoom sur A et B. Et si vous arrivez à voir le petit cercle rouge, il entoure en fait Proxima qui n'est pas visible, qui est très faible. Elle ne fait que 0,15% de la luminosité du Soleil.
Ah oui, voilà.
Et donc, parmi les choses rigolotes que vous, certains d'entre vous, auteurs de science-fiction, pouvez exploiter et avez déjà exploité par le passé, quand on a une planète comme ça, aussi proche de son étoile, ça implique des choses, et notamment sur sa rotation, parce que les forces de marée sont telles que, notamment, a priori, elle présente toujours la même face à son étoile. Donc ça a des conséquences très fortes sur le climat. C'est compliqué. Et notamment, il y a un gros risque, c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'eau sur cette planète, toute l'eau va faire une calotte de glace sur le côté nuit, et le côté éclairé va être complètement sec. Donc il faut une atmosphère épaisse qui homogénéise les conditions, ou alors... un océan global qui peut se permettre d'être gelé du côté nuit, mais liquide du côté jour, et ça circule par la circulation océanique. Il y a d'autres modes de rotation. Il y a un autre mode de rotation qui est autorisé, c'est celui de Mercure, résonance in orbite 3-2, c'est-à-dire que la planète tourne 3 fois sur elle-même toutes les 2 orbites. Et là, ça pose quand même un autre problème, c'est que les forces de marée, de toute façon, annulent toute obliquité, donc les pôles sont très froids et il y a possibilité de perdre les climats là-dessus. Donc ce qu'on a fait, nous, sur Proxima, depuis plusieurs mois, c'est étudier tous les climats possibles, en tout cas une grande gamme de climats possibles, en jouant sur les quantités d'eau, de dioxyde de carbone, d'azote, etc. Et voilà notamment voilà ce qui pourrait être des simulations pour la Terre. Donc est-ce qu'on va simuler une planète de 1,4 fois la masse de la Terre, on l'a couverte d'océans, on lui a mis l'atmosphère terrestre, déjà, pour voir ce que ça fait, et on a regardé les deux types de rotation. Donc en haut, c'est synchrone, donc la planète présente toujours la même face à son étoile, donc la partie rouge très chaude, enfin très chaude, qui est, voilà, comme en ce moment à Gradignan, on va dire. Voilà, donc limite hors zone habitable, on est d'accord, et donc la partie nuit, en fait, c'est de la glace. Et là, vous avez un océan. Alors, vous ne voyez pas bien, mais il y a une limite en pointillé. Vous avez sur la partie qui se présente toujours à l'étoile, vous avez un océan liquide. Et sur la partie extérieure, vous avez un océan glacé. Et dans l'autre cas, on l'a mise avec cette rotation 3-2. Et ce qu'on a dans ce cas-là, c'est que l'océan est glacé partout, sauf l'après-midi dans la zone tropicale. Mais ça, c'est avec l'atmosphère terrestre. Si on augmente la quantité de gaz à effet de serre, on peut avoir des océans partout. Je vais pas vous, mais si vous voulez en discuter, on a fait toute la zoologie des climats possibles en fonction des différentes quantités, des différents constituants atmosphériques qu'on peut avoir pour ce système-là, pour le cas synchrone, mais je vais passer très vite. Mais pourquoi cette planète, elle nous intéresse beaucoup plus que Kepler-186f? C'est parce qu'elle est vraiment la porte à côté, elle est à 4 années-lumière, et à 4 années-lumière, la distance qui sépare la planète de l'étoile, qui est très proche, elle est à 5% de la distance Terre-Soleil de son étoile. Et ça représente 38 millisecondes d'arc. Ça paraît faible, mais ça, avec le télescope géant qui est en train d'être construit au Chili par l'Observatoire européen, l'ESO, qui est représenté ici à gauche, qui est comparé à droite au VLT, qui est un des plus grands télescopes au monde actuellement, et comparé aussi au Colisée à droite. Je trouvais que ça faisait un peu SF, ça. Un peu uchronie. Les Romains dans leurs grandes heures, qui ont fait de l'astronomie, ils ont fait des trucs géants et tout ça. Néron s'est lancé dans la... Et alors, vous ne voyez pas bien l'échelle, mais la structure fera 100 mètres de haut. Donc c'est un truc... Et avec ça, on peut prendre une photo de Proxima. C'est la seule exoplanète. Alors, on a déjà pu prendre des photos d'exoplanètes, mais c'est des Jupiter très chauds qui viennent de se former, qui sont très loin de la toile. Là, on a une planète peut-être habitable. Alors, bien sûr, je fantasme, parce que ça se trouve, c'est un gros Mercure sans atmosphère, sans rien. Mais avec cet instrument-là, c'est mon dernier slide, on pourra prendre une photo et appliquer tous les outils de l'astrophysique, notamment la spectroscopie, à haute résolution, pour voir de quoi c'est fait.
Il faudrait utiliser un gros flash.
Voilà, elle a une étoile, c'est ça son flash. Là, je vais m'arrêter.
Merci. Échéance de cette
oui, pardon. Donc la construction a démarré. Ouais. Ils ont rasé une colline pour pouvoir faire un truc plat et... Les premières lumières des instruments devraient être un petit peu avant 2025, on va dire 2023-2024. Comme ça prend toujours du retard, on va dire 2025. Voilà, une dizaine d'années. On pourra tenter des choses en 2018 avec indirect, avec le télescope spatial James Webb qui sera lancé en 2018, qui fait 6 mètres de diamètre dans l'espace. Mais ça va être difficile. J'ai bossé pas mal dessus, j'ai essayé de voir ce qu'on pourrait faire. Ça va être compliqué, mais on essaiera, ça c'est sûr. Voilà. Je ne sais pas, il y a des gens qui lèvent le doigt, mais c'est
une précision sur le début pour Kepler.
186F, la première dont j'ai parlé, qui était la première planète de type rocheuse. Ouais. C'est aussi une naine rouge. Elle est un peu plus grosse parce que Proxima fait qu'un dixième de la masse du Soleil. Et Kepler 186 fait à peu près 30% de la masse du Soleil. Donc quand même trois fois plus grosse, trois fois plus massive que Proxima, pas trois fois plus grosse.
Alors, deux possibilités, soit vous gardez votre question tout à l'heure, soit pour tout à l'heure on fera l'espace question, vous la notez au cas où vous oubliez, soit voilà, s'il n'y en a pas trop, vous répondre effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez?
Il y avait une ou deux mains.
Il y avait quelques mains qui se levaient?
Déjà, elles se sont baissées.
Merci.
Non, mais.
Qui pourra avoir une atmosphère ou pas. Est-ce qu'on a suffisamment de savoir au niveau physique pour pour savoir si c'est si une planète dans la zone d'habitabilité, par exemple,
non, c'est pas.
Ou autre, à 10% ou 50%.
On est ignorant de ça. Alors bien sûr, les planètes géantes, c'est du gaz, donc ça compte pas. Mais les planètes telluriques, qui font moins de, on va dire, 6 fois la masse de la Terre, toute notre connaissance, elle est issue de la Terre, sa comparaison avec Vénus et Mars. 3 planètes, Mercure n'a pas d'atmosphère. Donc, tout ce qu'on sait sur l'origine, l'évolution des atmosphères des planètes telluriques, on le doit à notre planète et à ces deux œuvres. On est forcément extrêmement biaisé, c'est super compliqué une planète. Et la formation d'une planète, et d'où vient l'eau, d'où vient les constituants. Donc, on est forcément ignorant, on ne comprend pas. Et tout est possible. Et il y a quelques exoplanètes en fait dont on a la densité parce qu'on a à la fois le rayon et la masse, et on a une diversité de densité qui montre qu'il y a des planètes riches en volatiles et des planètes très pauvres en volatiles. Donc tout est possible dans voilà, la nature, c'est faire
des. Non. C'est loin du haut par là.
Non,
c'est trop près du
haut par là. J'irai faire un gros larcène. Et qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Oui, et donc moi c'est ça qui m'enthousiasme avec Proxima B, c'est qu'à ces 3 planètes qui nous servent de fondation pour nos connaissances en planétologie pour les planètes terrestres, on peut en rajouter une. Alors si elle n'a pas d'atmosphère, on sera un petit peu démunis, mais si potentiellement elle en a une, ça va être une révolution, même si on en rajoute une. Après, il faudra des instruments beaucoup plus compliqués pour aller chercher les atmosphères.
Fais une bonne recherche.
Comment ?
Fais une bonne recherche.
Alors, on peut commencer à caractériser les atmosphères de planètes géantes, ça on l'a déjà fait. En 2007, j'ai participé à un groupe qui a pour la première fois détecté une molécule dans l'atmosphère d'une exoplanète. Maintenant, on arrive à le refaire sous l'autre. C'est toujours des Jupiter ou des Neptune, ou si c'est des planètes telluriques, c'est des planètes telluriques très très chaudes. Donc, quelqu'un vous montre qu'il n'y a pas d'atmosphère, au moins une d'entre elles. Donc voilà, non, on est dans l'imaginaire encore par rapport à ça. Donc c'est entre vos mains, encore 3 mois.
Ok. Alors.
Je pensais bien que Franck aurait un public tout acquis à sa cause. Bien, alors maintenant nous allons. Je vais inviter Jean-Louis, Roland et Franck. On va monter sur la scène et on va donc faire ce débat sur science-fiction et vie réelle. Voilà. Scientifique pour cette soirée, et puis ensuite Roland Loup. Donc Jean-Louis Rougeant est directeur de recherche au CNRS. Il est géophysicien donc à Météo France. Il vous expliquera lui-même évidemment ce que signifie cette dénomination. Il a fait des études sur la mécanique des fluides et une thèse donc au CNES sur les satellites. C'est vraiment ça, une de ses spécialités. Il a fait un postdoctorat au CNES avec des séjours aux États-Unis. Et sa spécialité, c'est ce qu'on appelle la télédétection, c'est-à-dire l'observation spatiale de la Terre. Mais en réalité, il est là plus ce soir pour nous parler également donc, du climat. Et puis Roland Lehoucq. Alors Roland Lehoucq, que certains d'entre vous connaissent bien, parce que c'est le président évidemment du Grand Festival des Utopiales. Mais ce soir, il est là parce qu'il est chercheur au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, n'est-ce pas Roland ?
Alternative.
Il est astrophysicien. Il a fait une thèse sur l'astrophysique des rayons gamma. Donc ça, On s'est dit avec Roland que c'était quelque chose peut-être qui allait vous parler par rapport à Hulk, tout ça, les rayons gamma. Sa spécialité, c'est donc la cosmologie, c'est-à-dire la forme ou les formes donc de l'univers, autrement dit ce qu'on appelle la topologie cosmique. Voilà. Donc voilà pour la présentation donc de nos scientifiques, et je ne reprends pas évidemment la présentation de Franck. Alors ce soir, on va discuter en fait de trois thèmes, et j'ai un petit peu, trié les spécialités, enfin, des thématiques par rapport aux spécialités évidemment de leur profil scientifique. Donc pour Roland, j'ai un petit peu consacré aux voyages spatiaux. Jean-Louis Rougeant, qui va nous parler de la réalité en quelque sorte du réchauffement climatique et peut-être des recherches donc du GIEC. Il va vous en parler après. Et puis pour Franck, eh bien, on reviendra, je pense, sur les exoplanètes, sur l'habitabilité pardon, de ces planètes, en dehors évidemment du système solaire. Et on fera le lien, bien sûr, avec la science-fiction. Voilà. Alors je vais commencer par Roland. Et Roland, je voudrais que tu nous fasses un petit point, peut-être, sur. Parce que je sais que c'est un thème qui te tient à cœur, sur les voyages spatiaux actuellement, où est-ce qu'on en est en fait? C'est-à-dire, où en est la recherche scientifique? Qu'est-ce qu'on envisage comme type éventuellement de voyages spatiaux dans l'univers? Quel type de technologie? Et qu'est-ce qui serait peut-être réalisable?
Alors, on n'en est pas loin. On n'en est pas très loin. On a envoyé une sonde, quand j'étais petit, c'était le pied total, on envoyait une sonde tous les 2 ans. On envoyait une sonde tous les 2 ans dans les années 70, 75, les sondes pionnières en 10 et 11, pour voyageurs 1 et 2. Maintenant, on envoie des sondes moins régulièrement. Ces sondes ont voyagé 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans dans le système solaire, presque 40 ans même. La plus lointaine d'entre elles, je ne sais plus laquelle c'est, de voyageurs 1 ou 2, est à 110 ou 115 unités astronomiques, c'est-à-dire elle est 115 fois plus loin, mettons, du Soleil que de la Terre. Elle a mis 40 ans pour faire ça. C'est loin, hein, la Terre est à une unité astronomique par définition, Jupiter 5, Uranus, Neptune à une trentaine, 115, on est déjà sorti de ce qu'on appelle le système solaire, la cavité solaire, une sorte de volume qui est rempli essentiellement par la matière du Soleil, qui est gonflée entre guillemets par le vent solaire, cette matière qui s'échappe du Soleil régulièrement. Et au-delà, on est dans le milieu interstellaire, donc elle est déjà quelque part, on ne connaît pas bien l'épaisseur de la cavité solaire, elle peut varier sur l'altitude du Soleil, mais enfin, elle est quelque part dans le système, dans le milieu interstellaire, 115 unités astronomiques, l'étoile la plus proche, elle est à 272 000 unités astronomiques. Voilà, donc si, voilà la Terre, voilà le Soleil, 1 mètre, par là-bas, à 272 km, il y a le Proxima, et à une centaine de mètres, quelque part vers la piscine, il y a le voyageur. D'accord ? Donc c'est loin, mais bon, c'est quand même pas super. Et la vitesse à laquelle elle s'éloigne en ce moment, elle est à une vitesse qui lui permet de s'échapper définitivement du système solaire. Elle est, je ne sais plus, une quinzaine peut-être de kilomètres par seconde. 15 km par seconde, c'est pas mal, ça fait quand même 45 000 ou 50 000 km par heure, ce qui n'est pas ridicule. Enfin, c'est complètement grotesque. 15 km par seconde, ça fait 15 parsecs par million d'années, ça fait 45 années-lumière par million d'années. 45 années-lumière par million d'années. Voilà. 500 années-lumière, une exoplanète sympa, 10 millions d'années. Voilà. Alors, elle n'est pas à 45 années-lumière, l'autre est à 4,5 à peu près les lumières Proxima, donc 100 000 ans. Voilà l'ordre de grandeur pour qu'elle atteigne Proxima, si tant est qu'elle ne la vise pas, mais si elle devait viser Proxima, 100 000 ans pour y arriver. Donc on est au pif sans sonner. C'est juste minable, on rigole, on se dit qu'est-ce que ce bordel, mais où sont les vaisseaux de Star Trek? Alors, ils sont dans Star Trek. Alors après, il y a eu des projets. Alors depuis ces sondes voyageurs et pionniers, il y a quand même eu l'année dernière, vous avez entendu parler, de la sonde New Horizon qui a survolé Pluton et qui a mis un temps assez faible finalement pour atteindre Pluton, qui est à peu près 39 unités astronomiques, 39 fois la distance d'un Soleil, et qui parcourt de l'ordre d'un million de kilomètres par jour, ce qui n'est pas ridicule, mais encore une fois, c'est un peu mieux que les autres sondes, mais ce n'est pas terrible, et donc c'est pareil, elle mettra plusieurs dizaines de milliers d'années si elle devait viser une étoile pour essayer de l'atteindre. Plusieurs dizaines de milliers d'années. En fait, il faut réaliser ça, que les distances entre étoiles sont si considérables, les vitesses qu'on est capable d'atteindre sont si minables, que la durée qu'on met pour les atteindre, la distance divisée par la vitesse moyenne, c'est des durées considérables pour l'instant. Donc les seules explorations qui sont programmées dignement par les humains, c'est essentiellement le système solaire, et c'est pas tous les jours. Il y a une époque d'exploration, on balançait 4 sondes, enfin Pioneer 10 sondes, Voyager 1-2 était balancé entre 73 et 78, quelque chose comme ça. Donc en 4-5 ans, crac, il y avait 4 sondes super qui sont parties. Maintenant, on fait une sonde de temps en temps, les coûts sont élevés. Comme les coûts sont élevés, que c'est des grosses communautés scientifiques qui travaillent sur une seule sonde interplanétaire, on ne veut pas que ça rate, donc les contrôles qualité sont extrêmement sévères, surtout qu'on est dans l'espace, on ne peut pas réparer un voyageur, si elle tombe en panne, elle n'est pas tombée en panne, mais on ne pensait même pas qu'elle dépasserait Jupiter, et puis finalement, elle a pu faire Saturne, et puis Uranus, et puis Neptune, et puis elle émet encore des données sur les flux de rayons cosmiques à 105, à 115 unités astronomiques. Donc tout ça fait qu'on peut pas, on n'envoie plus des sondes à tir d'argot, et que donc les projets, les prochains projets, c'est des projets comme JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, ça veut dire quelque chose qui va, une sonde qui va aller en orbite autour de Jupiter pour explorer les lunes glacées de Jupiter, qui sont faute d'exoplanètes qu'on peut savoir sous la main, au sens d'être capable d'y aller. Alors on les aura peut-être par leur lumière, grâce au télescope dont parlait Franck, on les aura peut-être par d'autres moyens, ça sera assez subtil, mais on les aura que quelques grains lumineux, quelques photons qui viendront de ces exoplanètes pour essayer de les étudier. On peut essayer de chercher des traces de vie ailleurs dans le système solaire que sur Terre. Sur Mars, il y a ces robots martiens, maintenant tout le monde les connaît. Mars, maintenant, c'est quasiment du quotidien, on n'en parle même plus dans les journaux, sauf s'ils trouvent une bactérie fossile quelque part, ou un truc vraiment extraordinaire. Et il y a d'autres endroits du système solaire, comme les lunes glacées de Jupiter, comme en Europe, sous la croûte de glace de laquelle on sait qu'il y a un océan global qui est en contact avec un fond rocheux, et il y a de l'eau liquide avec un fond rocheux, donc des possibilités de chimie, notamment avec de la chaleur qui viendrait de l'intérieur de la lune de Jupiter, sous une coupe de glace. Donc là, voilà un endroit où on aimerait bien aller. Donc on va commencer à étudier plus en détail ces lunes glacées. On sait aussi sur la lune Encelade de Saturne, il y a aussi un océan global. Bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour l'instant, l'exploration spatiale la plus poussée, si j'ose dire, c'est soit on pose des robots un peu sophistiqués sur Mars, et ça va, il y en a encore d'autres qui sont prévus, ça va arriver régulièrement. Soit on envoie des satellites en orbite autour de la Terre, mais là c'est pour explorer l'univers profond, donc des observatoires spatiaux qui observent le ciel dans des rayonnements qui ne parviennent pas au sol, par exemple en rayons X, ou en rayons gamma, ou en ultraviolet. Et puis enfin, l'exploration vraie, celle qui nous plaît bien, c'est une sonde tous les 15 ans, qui va faire un plan génial, hein, la sonde Cassini, qui est en orbite dans le système de Jupiter, elle va bientôt être débranchée, mais elle tombe de Saturne, elle va bientôt être débranchée, mais elle a accumulé données absolument extraordinaires sur tout le système cronien, comme on dit en chef. On dit pas le système saturnien, ça c'est pour l'inubi, on dit le système cronien. Et le système jovien, dans Jupiter, il y aura cette JUICE qui va partir et peut-être d'autres. Mais c'est un rythme finalement assez lent et c'est pas en dehors du système solaire. Il n'y a aucune mission d'exploration prévue pour aller bricoler quelque chose dans les confins du système solaire. La dernière, c'était New Horizon, qui a été déviée, elle est passée près de Pluton. Et puis, on l'a déviée, il y avait encore un petit réservoir, un petit peu de carburant, elle a été déviée pour viser, qu'elle atteindra en 1er janvier 2019, pour viser un objet de la ceinture de Kuiper, des objets qui sont, disons, Pluton étant un des plus gros et des plus anciens représentants que l'on connaisse, tous ces objets qui sont, disons, au-delà de Neptune, des objets qu'on appelle même transneptuniens. Et elle va viser un petit machin qui fait une quarantaine de kilomètres de diamètre, et elle va faire un flyby pour voir ce qui se passe. Ça, c'est le truc le plus dément qu'on aura jusqu'en 2019. JUICE va partir en 2018, va explorer les lunes de Saturne, de Jupiter, donc ça va être aussi un truc terrible, mais il n'y a pas grand chose, c'est pas des wagons de choses qui vont se passer. Alors, je ne parle même pas d'aller explorer Proxima B, 4 années-lumière, c'est pas Avatar. Quoi. Dans Avatar, ils mettent 5 ans, 9 mois, 22 jours pour aller autour de Proxima du Centaure. Ils ont un vaisseau pas mal, assez bien pensé, mais on est très 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 loin de savoir faire ça. Donc les perspectives à l'échelle de votre durée de vie sont assez faibles.
D'accord, merci Roland.
Je suis un peu désolé, c'est aussi ma durée de vie, ça me désole chaque fois que j'y pense. Alors, en même temps, pour mettre un petit... Voilà, pour mettre quand même, pour balancer un peu ça, vous avez entendu peut-être parler de ce projet qui s'appelle Breakthrough Starshot, un russe, un milliardaire russe, qui est essentiellement, pour sortir de la publicité, a financé à hauteur de plusieurs millions de dollars des projets d'envoyer des sondes vers Alpha du Centaure, justement. Poussé par des lasers, donc ça on pourra en discuter si vous voulez. C'est pas bête dans l'idée, ça va pas être facile dans la pratique. Il y a plein de milestone, comme on dit en anglais, il y a plein de bornes à franchir proprement avant de pouvoir faire ça. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas de l'ordre de l'impensable, mais il faut avoir vraiment un gros argument pour que les agences s'y mettent sérieusement. Si on trouve que Proxima B, elle existe vraiment, qu'elle est habitable, et qu'en plus, en faisant l'analyse de son atmosphère, il y a peut-être des indices, sans avoir des certitudes d'une vie de surface, on peut espérer qu'on va lâcher les dollars pour faire un truc sérieux, qui va essentiellement consister au mieux à envoyer un iPhone de dernière génération à 10e de la lumière autour de Proxima. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas rêver, ce ne sera pas non plus Star Trek. Mais je pense qu'il faut avoir un gros argument pour l'instant, pour envisager un voyage interstellaire, un gros argument scientifique.
Bien. Alors, merci Roland, mais finalement, ce que tu nous dis, ça laisse quand même pas mal de place encore à l'imaginaire. Ce sera la seconde partie, justement, de notre débat. Alors, Jean-Louis, on va revenir à des choses, alors, plus terre à terre, concernant évidemment le climat. Et on a fait venir Jean-Louis parce que je pense que c'est bien, à un moment donné, la science-fiction finalement nous propose des visions assez apocalyptiques, évidemment, liées au climat, hein, liées au changement climatique, au réchauffement climatique, ou pas d'ailleurs, hein, ou à des glaciations, etc. Il y a, je dirais, tout un tas de formulations diverses pour justement aborder la catastrophe climatique. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de savoir où est-ce qu'on en est finalement. Avec cette histoire, alors Jean-Louis va être très factuel, mais où est-ce qu'on en est finalement de cette notion de réchauffement climatique ? Est-ce que c'est si catastrophique que ça ?
Merci Natacha. Alors, je suis un peu novice en science-fiction, donc j'ai commencé à regarder ce qui se fait en climat-fiction, certains appellent Cliffy. Donc en fait, il semblerait que ça a démarré un petit peu dans les années 60 avec les mouvements écologistes qui ont commencé à prendre conscience qu'il fallait prendre soin de la planète et inventer des scénarios. Et je pense qu'en dans les années 90, il y a eu une recrudescence actuellement avec des films le jour d'après, par exemple, toujours concentrés sur un peu des visions apocalyptiques du futur. Mais c'est pas seulement que ça. Alors, avant de parler de la réalité de ce jour, donc il y a eu, la Terre s'est réchauffée par le passé. Hein, il y a eu une alternance je pense notamment à l'optimum climatique médiéval entre 900 et 1200 à peu près, et puis suivi par un petit âge glaciaire entre 1400 et 1850. Donc il y a des phénomènes naturels qui sont plus ou moins connus. On sait que le flux solaire a été très influent là-dessus. Ça, on le connaît, on sait le relier avec des activités aussi volcaniques. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît un petit peu. Bon, à cette époque-là, pour ceux qui connaissent, il y avait le Groenland, la Terre verte, hein, donc, qui a été colonisée par les Vikings, qui ont tenu un certain temps jusqu'à ce que ça se refroidisse. Là, ils n'ont pas pu subsister. Ensuite, donc, bien qu'il semblerait quand même qu'Éric le Rouge ait fait une grosse propagande sur cette fameuse terre verte pour attirer des gens, plus qu'elle n'était rentable, bon, il y a un peu d'histoire là-dessus. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc ça, c'est des phénomènes plutôt naturels et d'un réchauffement ou refroidissement d'un demi-degré à peu près constaté dans l'hémisphère nord qui n'a aucune mesure à ce qu'on mesure aujourd'hui sur les dernières décennies. Alors, je vais être effectivement très factuel. Donc, vous connaissez tous le GIEC, hein, le groupe. C'est le groupe d'experts international d'évaluation du climat. Donc, ça regroupe à peu près 800 scientifiques, on fait à peu près 20 000 études sérieuses. Il y a un rapport en 2007, il y a un rapport plus récent en 2014, c'est des rapports très alarmistes. Hein. Alors, qu'est-ce que s'il dit en quelques mots ? Ils disent qu'en 2007, la probabilité que l'homme soit responsable, anthropisation du réchauffement du climat depuis l'ère pré-industrielle, est de 90% en 2007. Révision en 2014, 95%. Donc voilà. Et fait constater par notre observation spatiale, notamment. Bon, ça, c'est un peu mon fonds de commerce au départ, c'est ma formation. On voit que les trois dernières décennies ont été les plus chaudes du siècle passé. Alors, pour le siècle passé, on voit à peu près un réchauffement de la planète de 0,83 degrés, un peu moins d'un degré. Si on continue comme ça, les fameux 2 degrés dont vous avez entendu parler, le seuil, on va l'atteindre en 2030. Un seuil très critique. Effectivement, certains, l'énergie durable, par exemple, certains ont abandonné les programmes nucléaires, bon, on sait pourquoi, et on fait des énergies plus carbonées, évidemment, ça a des certaines conséquences et ça n'a pas dans le bon sens. Les projections, c'est... Alors, on a un gros problème, on a une fourchette entre 0,3 et 4,8 degrés à l'aube 2100,
Le problème, c'est qu'on a très peu d'informations quand on est confronté, en fait, des simulations climatiques sur les trajectoires d'émission, sur le CO2, puisqu'effectivement, on arrive à, les températures se corrèlent très bien avec le CO2. C'est comme ça qu'on arrive à reconstituer les paléoclimats, puisque en faisant des. Regardant les cerneaux des arbres, par exemple, en regardant des dépôts de sédimentation, des carottages, ça, c'est des choses qui sont assez bien maîtrisées avec le CO2, dont on a déjà parlé précédemment. Donc, réduire les émissions, c'est très bien, mais si on réduit de moitié à peu près, à l'aube 2050, on va avoir 2 degrés, et il faudrait quasiment abandonner pour retomber aujourd'hui, par exemple, à 2100. Donc, c'est complètement de l'utopie. Enfin, il faut être conscient. Il y a des solutions, on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors, bon, ça a des conséquences évidemment dramatiques. Alors, le niveau des océans, à peu près, s'est augmenté depuis un siècle de 0,19 cm, à peu près. Et les projections, voilà, les plus pessimistes, c'est 1 mètre en 2100. Alors, moi, j'ai des enfants assez jeunes, donc 2100, avec, si on arrive à bien le soigner, avec connaîtront l'augmentation d'un mètre de niveau des mers. C'est, enfin, c'est. Apocalyptique. Hein. Donc ça veut dire, sachant qu'il y aura des inondations, sachant que 2/3 de la population de la planète vit en côtier, sur le littoral, vous imaginez les inondations. Alors là, les îles du Pacifique du Sud qui commencent à mettre de briques de broc, des digues pour essayer de, ouais, d'endiguer, de ne pas être submergées. Alors là, bon, ouais, elles sont sous les eaux depuis très longtemps. Donc il va falloir s'occuper de ces populations. Les zones côtières, il va falloir reculer. Bon. On est aujourd'hui en Aquitaine, donc l'érosion du littoral, ben c'est une réalité pour la plupart des gens. Hein. Si vous allez à Soulac-sur-Mer, vous allez à Lacanau, vous voyez qu'il y a une progression. Voilà, donc imaginez avec 1 mètre en moyenne, la moyenne de l'augmentation au niveau des mers, c'est considérable. Alors, je pense qu'en 2007, c'était moins catastrophique, les prévisions. Alors, ce qui a changé, c'est qu'en fait, les gens ont mieux pris en compte la fonte des glaces, notamment du Groenland et de l'Arctique, c'était pas pris en compte. Alors, pour ce qui est des observations spatiales à peu près fiables, allez, on va dire depuis 1979, hein, 1980, à peu près 25% de la banquise a fondu. Alors, ce fameux passage du Nord-Ouest où certains bateaux sont très contents parce que ça leur fait gagner du temps. Et la mer de glace en été quasiment inexistante maintenant, avec pour la faune, évidemment, des conséquences catastrophiques pour les humains, comme chacun sait. Voilà, donc ça, c'est un scénario cataclysmique, c'est même pas de l'imaginaire, je pense qu'on le répète à volo, mais bon, il faut qu'il y ait des décisions politiques derrière. Alors les conséquences, elles sont énormes, parce qu'il y aura des événements extrêmes de plus en plus fréquents, des vagues de chaleur de plus en plus intenses, les cyclones tropicaux, les pluies diluviennes, des pays qui vont s'assécher, sécheresse plus intense, alors des pays notamment de l'Afrique et du Sud. Qu'il va y avoir des pénuries, des problèmes de santé, de malnutrition. Donc, je pense qu'il va y avoir des conflits larvés sur, demander l'asile climatique, enfin, et puis qu'il va y avoir des coûts extraordinaires. Voilà. Après, vous pouvez, à partir de ça, dresser des scénarios les plus pessimistes et voir comment les populations vont s'adapter à ce changement. Ce qui est sûr, c'est que par le passé, on a eu des changements pas aussi abrupts et pas aussi intenses, et certaines faunes vont disparaître, on n'a pas le temps de s'adapter, certains arbres. Bon, je pense notamment, elle me vient à l'esprit de la barrière de corail en Australie qui est devenue blanche à cause de l'acidification qui n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc il y a plein de phénomènes intenses comme ça qui vont. Donc voilà. Donc voilà, après. Alors c'est 2100 et on n'a pas de retour sur les trajectoires d'émissions. C'est un scénario bon, qui est pessimiste, mais peut-être probablement même sous-estimé. Alors il y a d'autres phénomènes aussi qui jouent, c'est notamment la pollution atmosphérique. Alors, les dépôts de carbone dessus qui contribuent à faire à fond des glaces du Groenland, par exemple. Alors, j'ai un copain collègue glaciologue à Grenoble, je lui dis, mais le carbone dessus, il n'en faut pas beaucoup. Là, c'est même pas des parties par million, c'est des parties par milliard. Il me dit, tu me donnes 1 kg de carbone dessus, je fais fondre l'arc alpin. Donc, c'est vraiment, il n'en faut pas beaucoup. Ça amorce, ça permet d'amorcer les fonds de glace. Après, vous avez, les courants qui peuvent être changés également. Vous avez d'autres, voilà, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, qui s'additionnent, qui peuvent faire que le phénomène s'amplifie. Le rôle des aérosols est très, très important, effectivement, sur la pollution. Voilà, alors il faudrait, dans le réchauffement climatique, il faudrait réduire les flux solaires, donc il y a des solutions un peu à l'échelonnerie, je pense qu'on en parlera un peu après.
Voilà, donc là, on va passer maintenant, en fait, au lien avec la science-fiction. Bon, là, vous avez eu un tableau, finalement, de la réalité. Donc maintenant, nous, on va un petit peu réfléchir. Je vais poser une question à chacun d'entre eux, finalement, par rapport à ce que projette, finalement, la science-fiction. Or, là, on voit bien, par exemple, avec ce que nous dit Jean-Louis, que la science-fiction, effectivement... Je pensais, par exemple, à les derniers ouvrages que j'ai lus, le dernier roman, par exemple, un des derniers romans de Jean-Marc Ligny qui s'appelle Exode. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Exode, vraiment. Et Jean-Marc travaille complètement avec des scientifiques, justement, pour essayer d'envisager ce futur cataclysmique lié au changement climatique. Et évidemment, c'est un petit peu exagéré, mais peut-être pas tant que ça, donc par rapport à la réalité. Et le débat de ce soir, finalement, on l'a vu, c'est... Franck nous a proposé donc cette vision des exoplanètes, mais qui sont quand même très loin, qu'on ne va pas pouvoir atteindre parce que Roland nous a dit, bah, oui, il y a quand même un certain nombre, enfin, il y a beaucoup de distance à parcourir, et pour l'instant, nous n'avons pas la technologie. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la planète Terre qui apparemment, quand même, est en grand danger. Alors, pour les liens avec la science-fiction, moi, je voudrais revenir vers Roland pour lui dire, finalement, bon, on n'a pas beaucoup de solutions actuellement, mais comment la science-fiction, est-ce qu'elle propose des solutions pour ces voyages spatiaux? Et est-ce que tu penses que c'est, on va dire, plausible ou possible? Est-ce que... dans un futur, évidemment, relativement éloigné, on pourrait éventuellement faire ces voyages spatiaux ou pas? C'est peut-être une question un peu difficile. Voilà.
Alors, la science-fiction, elle a plein de solutions, évidemment. Mais elle cherche pas à faire de la science, évidemment, elle ne s'embarrasse pas de détails. Donc, si vous voulez faire un empire galactique, il faut absolument pouvoir aller d'une planète à l'autre pour mater la rébellion. Si vous mettez un million d'années pour aller d'une planète à l'autre, vous ne mettez aucune rébellion, donc vous n'avez pas d'empire galactique. Conclusion, vous voulez aller vite. Même à la vitesse de la lumière, ça prend des plombes. Donc vous allez plus vite que la lumière, puis vous emmerdez pas. Vous inventez l'état truc astral qui fait je ne sais pas quoi. Et roule mille, on a un empire galactique. Comme les Romains, d'ailleurs, ont pu gérer les rébellions, parce que d'un bout à l'autre de l'Empire romain, en gros, du Portugal à Liban, on va dire en largeur, ils étaient capables d'envoyer leur légion d'un bout à l'autre en moins d'un mois. Ce qui fait que les emmerdeurs avaient un mois pour s'amuser, puis après, ils étaient glorieusement écrasés. Et puis, le temps de courant. Non, parce qu'il y a des mecs qui couraient, là, c'est la légion complète, alors ils ne marchent pas aussi vite que le mec qui court. Bon, enfin bref. Au final, en un temps fini et assez bref, la rébellion est écrasée. Donc on peut comprendre que la science-fiction, dans certaines situations, ne s'embarrasse pas de détails. Skywalker va sauver ses copains, par exemple Dagobah, il n'est pas question de mettre 50 ans, c'est maintenant que c'est de la merde, donc ouf, il y est maintenant. Donc, tout ce qui est proposé dans ces situations-là, d'aller plus que la lumière, pas jouable, enfin ça, voilà, ça rentre pas dans le cadre de la physique actuelle. Après, encore une fois, la science-fiction ne cherche pas à donner des solutions. Elle fait ce qu'elle peut, ce qu'elle veut, et puis de temps en temps, elle fait des propositions, comment dire, qui sont compatibles avec la physique. Alors, il y a eu des romans, notamment Strauss, par exemple, il a fait des romans où il y a effectivement des vaisseaux qui vont moins vite que la lumière, et il gère cette contrainte-là dans son roman, comment on peut gérer des planètes, une sorte de sénat qui se déplace dans un vaisseau, qui ne bouge jamais du vaisseau, qui se déplacent de planète en planète pour gérer la politique de tout un tas de planètes à vitesse subluminique, mais elles ne cherchent pas à donner des solutions. Alors en fait, la question des voyages interstellaires, pour comprendre pourquoi c'est difficile, il faut comprendre qu'en fait c'est un problème d'énergie. Ce n'est pas fondamentalement un problème de moteur. Est-ce que j'ai un moteur qui fait pouette, un moteur qui fait prout ou un moteur qui fait schmoll? Ça, on s'en fout. C'est un détail technique qui n'est pas sans intérêt quand il faudra fabriquer le vaisseau, évidemment. Il faudra faire quelque chose, il faudra choisir un choix, il faudra faire quelque chose pour propulser le vaisseau. Mais ce qui compte d'abord, c'est de combien d'énergie vous disposez et de quel rythme vous pouvez en disposer. Donc pour faire un voyage interstellaire un peu minable, du genre envoyer 1000 tonnes de charge utile à un dixième de la vitesse de la lumière, donc vous arrivez à Alpha du Centaure en cinquantaine d'années, une petite cinquantaine, temps d'accélérer, de décélérer, une petite cinquantaine d'années, mettons une cinquantaine d'années, 1000 tonnes de charge utile, c'est minable, hein, c'est beaucoup de ferraille, c'est pas mal, ça peut être des sondes, vous allez pouvoir explorer, s'il y a 7 ou 8 planètes, ou 4 ou 5, vous allez pouvoir les explorer bien, vous allez pouvoir peut-être poser un atterrisseur, mais il n'y aura pas d'humain dedans, à 1000 tonnes, il n'y a pas de ces matériels pour mettre un humain, même congelé, si je veux dire, dedans. Donc 1000 tonnes de charge utile, un dixième de la lumière, c'est un aller simple en 50 ans, retour des informations en 4 ans et demi, hein, le temps qu'il prend des photos, il vous les envoie, ça prend 4 ans et demi. Ce truc-là, l'énergie du vaisseau qui fait ça, 1000 tonnes à un dixième de la lumière, l'énergie du vaisseau, c'est
à peu près équivalent à l'énergie que consomme toute l'humanité en une année. C'est-à-dire pendant un an, vous coupez tout. Les trucs là, ça, tout, on coupe tout. On fait un gros tas de cette énergie. Je passe les détails techniques. Hein, on fait un gros tas de cette énergie. On l'injecte dans les 1000 tonnes avec un rendement idéal de 100%, ce qui n'arrive jamais. Et clac, vous avez un machin minable qui arrive à 50 ans. D'accord, ça, c'est toute l'énergie de l'humanité en un an. Pour ça. Donc, si vous dites que le rendement, c'est pas 100%, si vous dites que l'énergie, le bilan d'énergie, ça veut dire que le bilan d'énergie, c'est pas une fois l'humanité, mais c'est peut-être 3, 4, 5 fois l'humanité, ça veut dire que vous êtes mal barré, quoi. C'est un peu, vous voulez construire une maison à 1 million d'euros, vous avez 100 000, quoi. Et l'énergie, ça s'emprunte pas, hein. Pas comme les dollars. Ça s'emprunte pas. Donc, vous êtes dans les ennuis, et pour régler ce problème-là, ben, vous dites, il n'y a qu'à attendre, l'humanité, regardez, il y a 100 ans, il y a 200 ans, elle consommait beaucoup moins d'énergie. D'abord, il y avait moins d'humains, et ensuite, parce que chaque humain, à l'époque, consommait moins d'énergie par humain. En gros, on consomme par humain 10 fois plus d'énergie qu'avant la révolution industrielle, et on est à peu près 10 fois plus d'humains. On est passé de un peu moins d'un milliard à 8 milliards, 7 milliards, et on consomme 10 fois plus par humain en moyenne, sachant qu'il y a des gars qui sucent les pierres dans le Sahel, et qu'il y en a d'autres à Dubaï qui consomment 80 tonnes d'équivalent de pétrole par an. Donc, vous dites, ok, on a fait un facteur 100 entre la révolution industrielle et maintenant. Si on refait le coup du facteur 100, plutôt 5 ou 600, ce serait mieux, ça veut dire qu'au moment où on aura 5 ou 600 fois plus d'énergie que maintenant, le voyage interstellaire dont je viens de parler représentera 1% du bilan énergétique humain. Et 1%, c'est jouable si on prend les plus gros projets énergétiquement parlant humains, par exemple, en tout cas en termes de voyage, envoyer une fusée Saturne V sur la Lune. Pendant les 3 minutes où la fusée était poussée aux fesses par son moteur, ça ne durait que 3 minutes parce qu'après il n'y avait plus de carburant, la puissance de cette fusée, c'était l'équivalent de 192 réacteurs nucléaires, où il n'y en avait à peu près pas grand-chose en 69. Ça veut dire qu'elle consommait à elle toute seule environ 1% de la puissance électrique produite par l'humanité, dont quelques réacteurs nucléaires et plein d'autres centrales, pétrole, charbon. Donc on avait un seul engin qui pendant 3 minutes a consommé 1% de l'humanité, en énergie qui était parallèlement consommée par l'humanité. Et ça s'est mis en orbite comme ça, a tourné un peu, puis après c'est parti vers la Lune, puis c'est revenu. Vous voyez, c'est quand même pas le truc de fou. Et c'était 1%. Si je vous prends 1% de votre salaire, je pense que vous n'allez pas rire, mais essentiellement, si je vous dis c'est pour faire un voyage interstellaire, de dire ok, on prend. Même 2%, je pense, dans la salle, même on pourrait monter à 3 ou 4% dans cette salle, c'est des vrais durs. Donc ça veut dire qu'il faut que le bilan énergétique du voyage interstellaire représente, pour qu'on puisse le faire, reprendre une fraction, peut-être quelques pourcents, du bilan énergétique humain complet. Et comme pour l'instant, il représente 100% comme base de discussion, mais c'est peut-être 5 ou 600%, ça veut dire qu'il faut multiplier par un facteur beaucoup l'énergie dont on dispose sur Terre. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, d'où on tire l'énergie actuellement? Pétrole, charbon, gaz. Bon, vous oubliez, dans 50 ans, il n'y en a plus. Donc, ce n'est pas ça qui va nous aider à faire la machine qui nous emmènera vers les étoiles. Dans 50 ans, qu'il y en a plus. Et on va s'en servir pour plein d'autres trucs. Après, il y a les renouvelables. Dans l'espace, il n'y a pas de vent. Bon. Dans l'espace, il y a du soleil, mais plus on est loin, moins on en reçoit. Hein. C'est le coup des planètes chaudes ou froides, selon qu'elles sont près ou loin de leur étoile. Donc le soleil, ouais. Alors après, il reste quoi? Le nucléaire. Alors oui, si on a du nucléaire, on peut commencer à faire des choses. Pas le nucléaire de fission, du nucléaire de fusion, qu'on ne sait pas faire de façon contrôlée sur Terre. On sait faire des grosses bombes. Et on est en train de construire le réacteur ITER, qui, espère-t-on, sera même pas le prototype, sera l'expérience qui montrera qu'on est capable de faire un prototype industriel pour faire de la fusion. Et quand on aura le prototype industriel, ça montrera qu'on est capable de le produire en série. Le temps que la manip marche 30 ans, le temps que le prototype marche 30 ans, donc les gens qui vous disent la fusion c'est la solution du problème énergétique, c'est des fumiers, ça sera la solution en 2080, 10 ou 80, si tout se passe bien. En tout cas, si on sait faire de la fusion dans l'espace, on ne sait pas encore la faire sur Terre, là on a des moyens. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'énergie dans un seul truc. On a beaucoup d'énergie et même beaucoup de puissance, qui est le débit d'énergie. Ce qui compte à la fois, c'est à la fois la quantité d'énergie dont vous disposez. Ça vous dit si vous avez les moyens de votre politique. Vous avez 1 million d'euros pour acheter la maison super chic, vous pouvez l'acheter. Mais notez que si vous pouvez dépenser les euros corrigés de 1 euro par jour, personne ne bossera pour vous la fabriquer. Donc c'est aussi, il faut lâcher les euros pour un paquet de 10 000, disons, pour commencer à discuter. Voilà, ça c'est le débit d'argent. Le débit d'énergie s'appelle la puissance. Donc il faut l'énergie et la puissance. La fusion, il y a à la fois beaucoup d'énergie dans pas beaucoup de volume, en utilisant, mettons, du deutérium et du tritium, bon, il y a des subtilités, ou de l'hélium-3, il y a encore des subtilités, mais on peut avoir beaucoup d'énergie dans le cœur de la matière, dans le noyau des atomes qui constituent la matière, et on peut la débiter à un rythme qui est suffisamment stupéfiant, avec un réacteur à fusion, pour qu'on puisse imaginer un voyage interstellaire. On ne sait pas faire de réacteur à fusion, on ne sait pas les mettre dans l'espace, et voilà, donc il y a encore beaucoup d'étapes avant de faire ça. Voilà, il y a encore beaucoup d'étapes avant de faire ça, mais du coup, ça devient pensable. Des projets sérieux, j'entends par là, faits par des ingénieurs qui avaient la volonté de faire un projet pensable, qui n'est pas délirant, de voyage interstellaire. Il y a eu le projet Orion, il y a eu le projet Longshot, il y a eu le projet des Danus, il y a eu plusieurs projets depuis les années 75 à 90 à peu près, de groupes d'ingénieurs, jamais par des agences spatiales malheureusement, toujours par des groupes d'ingénieurs, de l'astronautique, de physiciens motivés, qui ont pris du temps personnel pour réfléchir à ça. C'est pensable, c'est ça qui est énervant. C'est pas genre, ah, il vous manque de la physique, les terriens. Vous êtes foutus, vous n'y arriverez jamais. Il vous manque de la physique. Il ne nous manque pas de physique pour le faire. Ça sera difficile techniquement, coûteux certainement, tout ce qu'on veut. Mais il ne manque pas de physique. Mais ça prendra du temps parce que ça met en jeu des quantités d'énergie qui sont, disons, au moins 1 ordre de grandeur, ou peut-être même 2 ordres de grandeur, au-delà de ce dont dispose l'humanité actuellement, dans un contexte où les énergies habituelles sont en train de se barrer, où les énergies renouvelables, on s'en fout pour aller dans l'espace. Il reste plus que le nucléaire, on n'a pas du tout spatialisé. Même un réacteur bête, même un petit réacteur nucléaire, on n'a pas spatialisé. Le jour où on a un réacteur nucléaire, même de 100 kW, ou de 1 MW, quand c'est minable, hein, 1 MW, c'est un réacteur nucléaire minable. Les sous-marins nucléaires, c'est 50 MW. Les réacteurs de production EDF, c'est 1 gigawatt, 1 milliard de watts. Donc un truc de 1 MW, c'est un millième de réacteur nucléaire habituel des centrales nucléaires standards, si je veux dire, ce qui fournit l'électricité. Même si on a un machin comme ça d'1 MW, on va pouvoir commencer à s'amuser dans le système solaire, je peux vous dire. Quoi. Là, ça devient vraiment fun dans le système solaire. Ça veut dire que vous faites la Terre-Mars, même avec moins d'un mégawatt, mais quelques centaines de kilowatts, faites la Terre-Mars en moins d'une semaine. Ça, c'est fun. Quoi. C'est pas forcément du Centaure, mais putain, on commence, voilà, on rigole plus. On fait Jupiter en un peu plus longtemps, quoi, mais un mois. Là, ça commence, y est. Quoi. C'est, on dit, tiens... J'ai gagné au loto, je me fais un week-end sur la Lune, où je vais faire un aller-retour sur Mars, je fais un fly-by de Mars par la navette qui fait le tour. Hein. Donc on peut commencer à s'amuser dans le système solaire si on dispose de beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est pas tout de suite pour les étoiles, parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Mais si vous avez quelques centaines de kilowatts disponibles en continu, le problème c'est d'abord en continu qui tourne en permanence, là on peut commencer à faire des trucs de roule vers Mars, on peut commencer à décider qu'on va faire une base sur la Lune vraiment, on fait la fusée de Tintin, hein. La Terre-Lune en quelques heures. Et là, on commence à avoir une base où on peut envoyer. Aïe, on a oublié le beurre. T'envoies du beurre. Ouais, c'est plus. J'ai oublié le beurre. Ben écoute, mon ami, t'attends la prochaine navette qui est dans un an. Quoi. Tu vois, t'es, voilà. Donc, ça commence à être sympa. On peut commencer à des trucs fun. Enfin, pas pour les pauvres comme vous, mais pour les riches ou pour les scientifiques ou pour les militaires, évidemment. Des trucs fun dans le système solaire. Ça commence à être quelque chose d'un peu sérieux dans le système solaire. Une colonisation, ou plutôt une exploitation des ressources du système solaire. Qui pourrait nous donner du mou, sachant que les ressources, il n'y a pas que le pétrole, le charbon et le gaz, hein, qui s'épuisent, on vous dit ça parce que c'est le truc qui va vous frapper dans votre voiture, mais le fer, le cuivre, l'aluminium, enfin il y en a encore, ça va, mais les métaux rares, je peux vous dire, tout ça, le lithium, tout ça, ça se casse la gueule, hein. Ça n'a pas la même échéance, hein, mais les phosphates, ça va durer encore un siècle, mais le lithium et tout ça, c'est 30 ans, quoi, au rythme où on va. Donc ça nous donne du mou pour voilà, avoir d'autres minerais, d'autres ressources. Aller piquer des astéroïdes, voilà. Si vous avez 100 kW de puissance en continu, vous pouvez vraiment aller piquer un astéroïde, le prendre, le mettre un petit, le mettre en orbite autour de la Lune pour ne pas effrayer ceux qui ne l'amènent pas. Parce que si les Chinois amènent un astéroïde en orbite de la Terre, on pourrait les taxer de vouloir bombarder les Américains ou réciproque. Bref, vous mettez en orbite autour de la Lune pour effrayer personne, vous l'exploitez, vous faites des plans sur la Terre. On peut commencer à avoir une sorte d'échelle où on met un pied sur la Lune vraiment. Puis un pied sur où on peut les astéroïdes, un pied peut-être sur Mars, et puis on explore vraiment le système solaire, et puis on récupère des boues cométaires pour avoir plein d'eau et pas avoir besoin d'envoyer depuis le sol, et puis on commence à être dans le système solaire. Donc la perspective qui me paraît moi la plus excitante, en tout cas à mon échelle de vie, si j'espère vivre 100 ans, si Dieu me prête vie, ce serait mal, je dis 100 pour faire rond, mais bon, on verra. Voilà. Dans les 50 prochaines années, quoi, je ne désespère pas qu'on commence à voir le début d'une exploitation, disons, minière. Du système solaire qui permettra d'avoir du mou pour s'implanter réellement en dehors de la Terre. Pas beaucoup de monde, évidemment. Hein. Toute la racaille, tous les pauvres, tous les mecs qui ne sont pas les plus occidentaux, tous les mecs qui n'ont pas l'énergie, tout ça, ils restent collés à la planète. Hein, mais Disons que des bouts d'humanité commencent à faire ça, et que pour ceux qui aiment la science-fiction, ça soit le début de quelque chose qui évoque le grand bond vers les étoiles. D'accord. Mais qui sera très coûteux énergétiquement parlant, qui ne sera pas, disons, à mon échelle de temps, ça c'est sûr. Mais on peut voir des choses sympas dans Voyage dans l'espace, mais dans le système solaire, je pense, à une échelle de 50 ans, ça j'y crois, parce que ça me fait plaisir, mais je sais pas, voilà, j'ai des arguments, enfin, c'est pas complètement délirant. Après, un vrai voyage vers Mars avec des vrais humains maintenant, c'est juste un truc de fou, quoi. C'est très compliqué, parce que l'espace est un milieu très hostile, le voyage est long, ça coûte un bras, enfin, c'est compliqué, ça prend 6 mois aller, 6 mois retour, et après, si tout se passe bien, enfin, c'est très compliqué. Mais essentiellement parce qu'on est des minables et qu'on fait un P au départ, et après on est en vol balistique, après on fait un P à l'arrivée pour se mettre en orbite autour de Mars, et puis c'est marre, quoi. Mais si on a un truc qui pousse tout le temps, ça on rigole plus, quoi. C'est ça la différence. Et le truc qu'il faut faire, si vous devez appuyer sur vos députés, si vous devez financer par votre argent un crowdfunding visé science-fictionnesque, foutez votre argent dans quelqu'un qui vous promet, avec quelques arguments crédibles, de d'avoir une disponibilité de 100 kW dans l'espace, au moins, et idéalement plusieurs centaines de kilowatts ou plusieurs mégawatts. Si on a ça, yes. Là, on peut commencer à discuter. Là, on peut commencer, mais vraiment à discuter. Tant qu'on ne sait pas faire ça, il y a beaucoup de techno, il y a plein de complexités, évidemment, mais c'est des détails techniques qui se régleront dès qu'on aura l'énergie pour faire les choses. Okay. On ne l'a pas, on est des minables, c'est tout. Vous n'avez pas le fric pour la maison, mais vous vivez dans un taudis, quoi, comme moi. Vous avez un truc minable qui ne vous convient pas, et si vous aviez juste 100 000 de plus ou 200 000 de plus, vous seriez content. Voilà. Bah, c'est pareil, vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous avez juste la capacité de rêver de la maison qui vous ferait plaisir. Vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Moi, c'est comme ça. Et pour les fusées, c'est un peu comme ça. Mais ce n'est pas complètement de question. Un truc qui pourrait nous arriver, qui serait positif de ce point de vue-là, c'est un peu de façon un peu bizarre de dire les choses, parce que c'est un positif qui serait une menace pour l'humanité. Si on se rend compte qu'un astéroïde, disons, pas trop gros, parce que sinon on est tous foutus, donc ça va pas, de 500 ou 600 mètres de diamètre, donc un peu gros quand même, nous vise bien droit, mais pas demain, parce que ça, on est foutu, ni après-demain, mais on se dit, on est sûr, putain, c'est vraiment sûr, dans 30 ans, ce truc, on se le prend dans la gueule. Le dévier, le faire éviter la Terre, c'est juste lui faire dévier de 6400 km au bout de la trajectoire qu'il va faire, il tourne dans le système solaire pendant 30 ans, c'est le dévier d'un rayon terrestre, c'est pas grand-chose. Si on est capable de le pousser un peu, c'est bon. Pour le pousser un peu, c'est pareil. Vous avez un machin qui fait 400 mètres de diamètre, 500 mètres de diamètre, qui pèse quelques milliards de tonnes. Il faut un certain effort, donc ça coûte de l'énergie. Si ce truc se produit et qu'on sait que ça va se produire, et on a assez de temps devant, en gros, vous avez pétard à mèche, la dynamite, là, vous êtes assis dessus, et on vous dit, alors vous faites quoi? Si on a un moteur nucléaire dans l'espace, et on sort des centaines de kilowatts, on peut faire des trucs et dévier l'astéroïde. Là, les agences vont se mettre d'accord. Les Chinois, les Russes, les Amerlocs, les Japonais, les Français, tout le monde va se mettre d'accord pour essayer de spatialiser un réacteur nucléaire, quitte à faire ça un peu vite, pour dévier le truc. Ça va sauver tout le monde parce qu'on ne sait pas où ça va tomber. Si ça tombe sur les Chinois, de toute façon, ça va chier en Amérique aussi. Si ça tombe sur les Américains, ça va chier aussi ailleurs. D'accord ? Donc, une menace comme ça pourrait motiver vraiment de mettre du nucléaire dans l'espace, qui pour l'instant, l'Agence spatiale européenne refuse strictement de mettre du nucléaire dans l'espace. Point. C'est écrit dans sa charte de fondation. Les Américains et les Russes ont mis du nucléaire dans l'espace. Forme de bombes qu'ils ont testées. Ils n'ont pas mis de réacteurs nucléaires dans l'espace, si, sous forme de radio-thermal générateur, donc du plutonium qui se désintègre spontanément, qui fait une source chaude, qui permet d'avoir une source chaude avec une source froide qui est le radiateur, et vous faites une machine thermique entre une source chaude et une source froide. C'est ce qui est utilisé par les rovers Curiosity, et par le rover Curiosity, c'est utilisé par la sonde Cassini-Huygens, c'est utilisé par New Horizon, voilà. Et c'est du nucléaire. C'est un tas de matières fissiles qui s'intègrent spontanément dans un truc qui fait chaud, et puis comme c'est chaud là et froid là, on fait une machine entre les deux et on produit l'électricité. C'est pas un réacteur nucléaire. Ça produit ces machines-là 100 watts, 200 watts. Là, on veut 1000 fois plus. Donc le jour où on sait faire ça, le jour où on se décide vraiment à spatialiser le nucléaire, mais ça pose pas une question d'acceptabilité sociale. Vous êtes d'accord pour faire Tchernobyl dans l'espace?
Ouais.
Voilà. Alors, il y a des mecs qui vont dire ouais, moi je suis prêt à tenter le coup, mais il y en a qui vont dire oh là là, Tchernobyl, Fukushima dans l'espace, non quoi. Donc il faut convaincre les gens, et vous n'êtes pas les seuls au monde, que, même si vous êtes plutôt bon public de ce point de vue-là, que ça va être intéressant, c'est pour le bien de l'humanité, que ça ne va pas coûter trop cher, que l'argent sera bien employé. Enfin voilà, il y a un problème d'acceptabilité sociale. Et c'est pour ça que j'évoquais une menace, disons, qui ne détruit pas l'humanité, parce qu'un bolide de 10 km de diamètre, là, adieu. Mais un truc de quelques centaines de mètres de diamètre, ça va faire des gros dégâts, ça va motiver les gens pour l'éviter, et donc, voilà, on dit ça peut-être, voilà, ça pourrait faire avancer les choses, c'est peut-être une façon un peu brutale de faire avancer les choses, on pourrait dire que ça avance autrement. Voilà, donc, avoir de grosses quantités d'énergie, une grande puissance, les deux à la fois, dans l'espace, ça permettra déjà d'avoir une vision du système solaire complètement différente de ce qu'on voit maintenant. D'avoir, le système solaire, c'est vraiment chez nous, hein, c'est plus la Terre, c'est bien au-delà de la Terre, la Lune y compris, et tout au-delà dans le système solaire. Et pour les étoiles, ça sera une perspective encore un peu plus lointaine, mais déjà, si on a des ressources qui sont maintenant à l'échelle du système solaire, alors les problèmes de... Il n'y a plus de lithium, il n'y a plus de titane, il n'y a plus tout ça, elles ne se posent plus à la même échelle, parce qu'on a accès à des ressources qui sont dans des quantités bien plus importantes, tout ça dont on dispose actuellement.
Ok.
Voilà.
Merci
donc,
Roland.
Il y a de l'espoir, enfin, je veux dire, moi, ça me ferait... Ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, moi, c'est à fond dans le système solaire, quoi.
On avait compris.
On peut la créer, oui. Mais je crois que c'est pas un bon plan. C'est comme dans les Watchmen, quoi. Ozymandias crée la menace pour.
Si on se met tous d'accord, les astronomes, on peut dire qu'il y a cet astéroïde.
On peut dire que c'est faux. Voilà, on pourrait faire un. On pourrait faire une fausse annonce.
Ouais. Non, mais. Comme dans
un complot.
Là, quand ils pensent que c'est un
complot.
Adam,
ouais.
qui a
on pourrait se mettre d'accord pour faire une fausse annonce que tout le monde confirme. Ouais. Et comme les politiques n'iront pas vérifier,
c'est
vrai.
Ah, c'est vrai. Grand comme le camp. Grand comme le Texas.
Grand comme le Texas, mais non, mais
ça, c'est
80 km.
Mais
80
selon,
km, il est
ceux-là, énorme. Ceux-là, on les connaît tous, hein, ceux-là, quand même.
Les 80, on les connaît.
Ceux-là, ils ont du mal à se cacher, comme le
celui des dinosaures, celui de l'impact catacétaire, il faisait en stimeton entre 8 et 10 km de diamètre.
Texas, c'est plus grand.
Ça, c'était vraiment... ça a chauffé. Quoi.
Et ça suffisait.
Et ça suffisait pour détruire du monde. Hein. Oui. Des questions. C'est l'heure.
Oui.
C'est l'heure de poser une question.
Ah oui, oui, s'il veut.
Oui,
sûr,
oui,
sûr,
oui.
Bah,
oui
effectivement, on parle de science, on parle de science-fiction.
Ouais.
Donc, tout ce que vient de dire Roland, il me paraît parfaitement convaincant, et moi j'aime bien ce genre de choses parce qu'on sait où on va et on sait où on va. Mais nous allons présenter un panorama de ce qui est possible dans l'état actuel des choses et qui est très très loin de vos ambitions éventuelles. Donc, c'est possible. Mais je me dis que en 1905, avec 1904, exprès, je prends la date de 1904,
bien sûr.
Aucune des choses dont il nous a parlé n'était inimaginable. Imaginez, si, il était possible. Donc, est-ce que le côté fiction ou le science-fiction ne veut pas nous amener à dire que dans 20 ans, tout d'un coup, une découverte majeure inattendue va nous faire permettre d'avoir des nucléaires de...
Alors d'abord, je rectifie juste un truc. En 1904, tout ce que je dis, c'est de la propulsion classique à poudre, donc Tsiolkovsky et ses potes, et Hermann Oberth, qui est un peu plus tard en fait. Enfin, bref, on avait déjà compris l'essentiel de la propulsion des fusées en 1904. 1904-1905, là c'est la relativité restreinte, à plus la relativité générale, donc là c'est les trucs de physique qui marchent bien pour le GPS et pour plein de trucs, mais on peut imaginer des choses avec la relativité générale, la propulsion qu'on appelle propulsion métrique, c'est-à-dire en déformant l'espace-temps, donc en tout cas on sait le penser, mais ça met en jeu des quantités d'énergie, alors là c'est juste délirant, donc là on oublie, donc là oui, c'est pensable, on peut faire en gros le plan, mais c'est tout le cahier des charges, tu vois. Et puis le cahier des charges il te fait peur. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée.
Mais on c'est juste une bonne idée.
Une idée géniale même, qui sauve tout, qui découvre le truc. On n'est jamais à l'abri de ça, évidemment. Simplement, on peut pas en être sûr par défaut. On peut pas en être sûr par défaut. Donc, on essaie de se... Enfin, moi, dans ma réflexion, dans mon agrément intellectuel, j'essaie de me baser sur tout qu'on connaît, quitte à les tirer un peu. Après, évidemment, si on peut inventer le gougnafeur de Piroulet... Voilà. Ben voilà, et ben justement, le gougnafeur de Piroulet, le jour où il sera inventé, alors évidemment, on pourra faire tout ce qu'on veut. Comme Asimov et sa pompe à électrons, qui pompe l'énergie du vide, je sais pas quoi, et qui fait papa-maman. Bon, on n'est pas à l'abri de ça, mais en l'état actuel des connaissances, les breakthroughs, comme on dit, les trucs qui vont vraiment perforer l'état actuel des connaissances d'un niveau qui est tellement énorme, ça sera un changement radical, on ne sait pas les prévoir à l'avance, évidemment. Mais on n'est pas à l'abri de ça, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un truc génial. Quoi.
Mathieu.
Une fois exploré par la science-fiction, c'est qu'on s'attend que l'être humain biologique est très fragile face à l'espace, c'est de se modifier soit biologiquement par des OGMs, soit d'avoir une post-humanité, les robots.
Là, bien sûr, l'incapacité technique, on l'a captique au sens matériel des choses, de la ferraille, quoi, on la compense par une transformation des humains qu'on envoie. Ça, c'est, on peut imaginer des choses pareilles. Pour l'instant, il y a pas mal de remparts. Éthique, de tabous qui sont autour de ça, mais bon, c'est pas impossible qu'on décide de faire des OS de l'espace en les modifiant génétiquement. Bon. Bien sûr, et ça en plus, je sais pas si on saurait le faire, mais on a les outils techniques en génétique pour commencer à faire des modifications génétiques sur toutes les espèces, le CRISPR-Cas9, là, toute cette affaire-là de ce ciseau moléculaire qu'on a, qui est sorti, qui résulte de recherches d'une chercheuse française et une autre, je crois, qui est allemande, ça donne des moyens où avant, pour faire des manips génétiques qui prenaient 2 ans, ça prend maintenant 2 semaines, quoi, en gros. Donc là, ça va, attendant 1 an ou 2, ça va, il va y avoir de la divergence en génétique. Donc peut-être c'est ça la réponse. Hein. Laurent Genefort, juste derrière, avait inventé les peaux épaisses ou des êtres vivants, et lui parmi d'autres, qui avait des êtres qui sont modifiés pour travailler, vivre, évoluer dans l'espace, en dépit des conditions et en dépit des conditions.
Roland, bah, 2 questions, et après on terminera le débat avec Jean-Louis et puis Franck, qui va avoir le mot de la fin. Alors allez-y.
Oui, on appelle ça des... Alors, ça, c'est pas vraiment stable, mais ce qu'on appelle des co-orbitaux, c'est-à-dire deux planètes qui... Non, alors, une antiplanète, c'est... Une antiplanète, ce qui veut dire, c'est s'il y avait une Terre symétriquement opposée au Soleil. C'est-à-dire qu'on ne verrait jamais, parce que, à moins de regarder par le côté, d'envoyer une sonde, une némésis, quoi. Et donc, si on fait ça, en fait, ces planètes, avec les interactions, elles vont bouger sur leurs orbites. Et on appelle ça des co-orbitaux, donc théoriquement c'est stable.
Voilà.
Théoriquement c'est stable. Théoriquement c'est stable. On les a cherchés, on les a pas trouvés. Pour l'instant, on trouve pas de co-orbitaux de planètes qui partagent la même orbite. Donc non, on n'en a pas trouvé, mais c'est pas forcément interdit. Ce sera pas strictement... quelque chose qui bouge de façon rigide comme ça. Le problème à 3 corps, donc simplement 3 corps massifs qui interagissent gravitationnellement, il est très complexe et il ne donne pas des solutions aussi simples que simplement un truc qui tourne comme ça. On n'a pas trouvé.
Monsieur ?
J'ai une question pour Roland. Vous avez parlé au début que cela, c'était l'énergie alternative. On a surtout entendu parler de
l'énergie atomique. Oui. L'énergie atomique, ils appellent l'énergie atomique, alors c'est l'énergie nucléaire qu'ils devraient dire, hein. C'est des charlots.
Enfin, effectivement, je pas dire. Pense que personne n'a l'idée de mettre des charlots dans l'espace, ça ne sera pas forcément plus facile. C'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce que pourraient être les pistes de recherche? Et là, il y a des scientifiques qui doivent se gratter la tête et se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme source d'énergie, quoi. Et quelles pourraient être les pistes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pistes de recherche qui pourraient
non, mais c'est
ans,
le
50 ans à l'énergie?
Le calcul, il est vite fait. On connaît 4 interactions fondamentales. L'énergie, ça résulte d'une transformation d'un système. Et il y a 4 interactions, il y a 4 modes de transformation. La gravitation, tu fais tomber de l'eau du sommet des montagnes et tu transformes cette énergie de chute en électricité, par exemple. Il y a l'énergie électrostatique, ça s'appelle la chimie. L'énergie nucléaire, l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire faible. L'interaction nucléaire forte, c'est l'énergie nucléaire de fusion, et l'interaction nucléaire faible éventuellement pour partie l'énergie de fission et la forte aussi. Point. Punct. La science, il y a 4 interactions fondamentales, il y a ces 4 sources d'énergie, point barre. Après, tu peux décider que tu fais brûler du maïs ou brûler du bois, que tu prends des noyaux d'hélium ou des noyaux de tritium, que tu prends de l'eau ou des pierres. On pourrait imaginer la lithoélectricité. Tu jettes des pierres du sommet des montagnes, ça tombe sur un truc et ça produit. Mais au final, tu utilises toujours les mêmes 4 interactions. Il y en a 4. Point. Donc, s'il y a une 5e interaction, si la physique trouve Dieu sait quoi, on peut discuter. Mais, tu vois, tout se réduit à ces 4 interactions-là. Et toutes les interactions, friction, tout ce que tu peux imaginer, in fine, ça vient d'une façon ou d'une autre de ces 4-là. Et celle qui est la plus compacte et la plus dense, celle où il y a le plus d'énergie par kilogramme de matière, c'est l'énergie qui résulte de la fission, ou de la fusion, surtout, des noyaux des atomes. Alors après, on peut dire, ah oui, mais il y a aussi l'antimatière. Mais l'antimatière, ça n'existe pas à l'état naturel. Donc d'abord, tu payes l'énergie pour produire l'antimatière. Et une fois que tu as ton antimatière dans la main, enfin, tu fais un effort parce que toi, tu es en matière, tu la mets avec la matière. Et là, et c'est une réaction de type nucléaire, disons, de type physique fondamentale. Donc ça sera juste un meilleur rendement que la fission ou la fusion, bien meilleur rendement. Mais tu as payé l'énergie pour produire un truc qui n'existe pas à l'état naturel. Parce qu'ils disparaissent spontanément. Ils s'annihilent spontanément avec la matière. Donc, on est coincé par ça.
Ok. Monsieur ?
Oui, j'aurais une question plus portée sur l'écologie.
je pense qu'il est mieux placé là-bas.
D'accord. Donc ça sert à rien de parler fort.
Oui, c'est vrai. Alors, en fait, le problème de la terraformation de Mars en particulier, c'est que aux époques où ça a été proposé, on pensait qu'il y avait beaucoup d'eau et de gaz sur Mars et que la clé, c'était de trouver un moyen de les libérer. Et il y a un papier de 1993 de McKay, Casting, etc., qui s'appelle Making Mars Habitable, où l'idée, c'est voilà, de trouver des moyens d'initier le processus de relâchement de l'eau, des calottes, etc. Maintenant, le bilan qu'on fait des volatiles, des gaz qu'il y a sur Mars, il est très faible. Donc, soit il n'y en a jamais eu beaucoup, soit ça s'est barré en grande partie dans l'espace. Donc ça ne suffit pas. Et du coup, les scénarios de terraformation se sont un petit peu quittés, on va dire, le monde scientifique. Après, dans le monde de la science-fiction, il y a eu les idées à la Kim Stanley Robinson, etc., faire tomber des comètes pour apporter justement ce qui manque sur Mars. Mais c'était une belle idée, mais qui partait du principe que tout était sur Mars, il fallait réamorcer le principe, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose sur Mars.
Et puis après, une échelle de temps aussi.
Non, dans Total Recall, ça va très vite.
Ouais. C'est vrai.
Mais c'est imaginaire, donc en fait.
Donc il y a prendre l'échelle de temps aussi, de durée, puis après d'y aller. Une fois qu'on a fait une deuxième Terre sur Mars, il faut y aller, quoi.
Oui.
Bien sûr, donc c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué. Il y a toujours... on est 8 milliards à déplacer qui veulent changer d'air, quoi. Il fait un peu chaud ici, donc on dit, tiens, Mars, il est plus frais. Mars, c'est moins 60, la température, moins 60 degrés Celsius. Mais voilà, c'est compliqué.
Il y a du relief.
Jean-Christophe,
ouais.
Oui.
Question par rapport à la Terre.
Oui.
Le scénario de catastrophe vers lequel on va pour 2100, est-ce qu'il serait influencé et modifié par le fait que, comme disait Roland tout à l'heure, pour l'énergie, dans quelques temps, on considérait qu'elle est balayée, que les métaux rares et autres sont balayés aussi. Est-ce que ça aurait une influence, ce genre de choses ou non?
C'est-à-dire d'ici là d'avoir une pénurie de
d'énergie oui, si star. Est-ce que ça jouera sur ce genre?
Alors sans, on peut imaginer parce qu'on n'a pas trop accès à cette information là, évidemment. Je pense qu'il y a des gens qui ont envisagé des reconversions, évidemment. Des énergies, des brevets qui sont un peu.
Ça marche ou pas?
Non,
oui.
Je peux parler.
Oui.
Un peu plus fort. Des brevets qui sont un peu en sous-main, certainement. Bon, il y avait aussi. L'hydrogène, par exemple, on fait des moteurs à hydrogène, je pense qu'il y a des choses qui existent. Après, bon, c'est vrai qu'on donne à peu près cette vision 2050, bon, peut-être un peu plus loin, parce qu'on arrive toujours à retrouver des énergies fossiles sur Terre, bien que, bon, le trafic et l'utilisation va certainement aller crescendo. On voit les pays émergents qui, effectivement, disent, mais attendez, vous me dites d'arrêter de polluer alors que vous l'avez fait pendant longtemps, donc, que ce soit l'Inde, enfin, des pays qui... Il démarre le Brésil et puis d'autres pays africains, effectivement. Donc, effectivement, ça pourrait, je pense, ça n'a pas été tellement pris en compte parce que le problème que l'on a quand on fait des simulations climatiques, comme je disais, on a un problème sur les trajectoires d'émissions. On ne sait pas ces politiques-là et je pense que ça n'a pas été tellement pris en compte parce qu'on n'a pas accès à cette information sur la disponibilité des ressources fossiles au-delà de 2050. Bon, c'est des seuils que ça va préférer. On sait que ça va s'arrêter à un moment donné, donc Roland vient de le rappeler. On sait que bon. Voilà. Après, bon, il y a d'autres énergies, hein, donc on en vient de rappeler, le nucléaire notamment, comment on peut le difficile à stocker de toute façon. Hein. Je ne pense pas qu'on fasse un trafic aérien et du nucléaire, enfin ça me paraît.
Pour favoriser les avions, ouais, c'est. Ça pour paraît, l'instant, ça paraît, c'est pas d'avion au solaire, enfin c'est le truc là, mais on s'en fout, il y a un type dedans. Donc,
oui, solaire
un peu, c'est sympa, mais c'est des démonstrateurs de techno et tout ça, c'est des expériences, disons, on peut voir comme une expérience, en plus d'être une aventure. Mais.
Exploitation commerciale.
Les avions, ils volent pas au solaire, ils volent pas au vent, ils volent pas avec des pédales. Enfin, si, on sait faire des avions à pédales, hein, ça existe. On sait faire voler des choses avec l'énergie musculaire d'un seul être humain, à condition qu'il soit bon cycliste. Cycliste, vraiment, qui pédale. On sait faire. Et puis, on sait pas faire voler d'avions au nucléaire. Pour l'instant, c'est à la chimie, quoi.
Alors, des moteurs à hydrogène, éventuellement.
Oui, non, mais on peut pas mettre. Non, mais on peut faire du kérosène de synthèse. Enfin,
synthèse, oui, on peut.
On peut toujours faire plein de trucs. Hein. Mais les militaires sont contents d'en avoir un peu, mais nous.
France, oui. Il y a un truc moi, qui m'a toujours fasciné, ces énergies fossiles, elles viennent toutes d'une période donnée de la Terre qui est le Carbonifère.
Ouais.
C'était à l'époque de la plongée dont on a parlé à un moment donné aujourd'hui. Donc, et c'est un phénomène qui s'est passé. La vie, elle a inventé un truc qui est le bois. Et pendant un certain temps, il n'y avait rien qui bouffait le bois. Et ça s'est accumulé et ça a fait les grandes réserves. C'est un espèce d'épiphénomène qui a eu à un moment donné sur lequel on a tout construit. Donc, Vous qui aimez les uchronies, il aurait très bien pu se passer une histoire de la Terre sans ce carbonifère-là, et où on aurait dû faire avec ce qu'on avait. Et,
ou les bactéries à bois, elles seraient pas plus vite. Par
voilà, ou les bactéries à bois, ou alors, voilà, ça aurait été... en tout cas, c'est vraiment lié à des configurations climatiques. Il faisait très chaud à cette période-là. Il y avait des forêts au pôle sud, il y avait des choses... Et ça s'est passé là, ce stockage du bois dans le sous-sol qui a été transformé en gaz naturel, en charbon, en pétrole. Moi, je trouve ça assez fantastique. Je ne sais pas si ça a été exploité dans les uchronies science-fictionnelles, mais
non, ça vient,
voilà.
Ça.
Et on va l'épuiser, et puis voilà. Et c'est fait.
Ouais, il y a des réserves, il paraît, importantes.
Alors, il y a des réserves importantes, voilà, notamment. Alors, il y a des rétroactions positives, parce que le fait qu'on déglace le pôle Nord... Effectivement, ça donne accès à des réserves assez énormes. Moi, il y a un truc qui m'avait traumatisé.
Si on les met dans l'atmosphère, ça va.
Oui, il y a un truc qui m'avait traumatisé. C'était de. Alors, je donne peut-être pas les chiffres correctement, mais je crois que c'est sous le Costa Rica qu'il y a des réserves très importantes. Et le Costa Rica tient le coup parce qu'ils arrivent à vendre leur biodiversité aux pharmaceutiques, qui est encore une industrie plus énorme que le pétrole. Et ils tiennent le coup avec ça. Mais il y a, je dirais, tout le monde qui regarde ces réserves de façon envieuse. Mais on m'a dit une fois, c'est des réserves extraordinairement vastes, mais néanmoins, ça correspond à 15 jours d'activité de la planète. Donc se dire qu'on serait capable d'abolir, d'anéantir cette biodiversité pour aller creuser dessous, etc., pourquoi pour repousser de 15 jours au niveau de la planète notre destinée. Et là, on parle de physique, mais finalement, les problèmes, c'est des questions politiques. C'est grosso modo, moi, je n'ai pas la compétence de discuter de ces choses-là. Le truc, c'est que dans Star Trek, vous avez une gouvernance planétaire qui prend des décisions en pensant à 100 ans, à 200 ans, etc.
À l'échelle de l'univers.
Nous, on pense à 5 ans, incapable de prendre au sérieux des problématiques comme ça. Alors, c'est... Voilà, donc moi, c'est pas les expertises de scientifiques, c'est vraiment une question de démocratie, de politique, de se projeter, de... Voilà, alors nous, avec les moyens qu'on a, Roland parlait des aspects de déviation d'astéroïdes. Alors, parmi les missions à venir, il y a une mission qui s'appelle AIM. On va essayer de dévier un tout petit astéroïde qui est satellite d'un astéroïde plus gros, qui est géocroiseur. C'est Didymos, qui est une petite lune d'un satellite qui s'appelle Didymos, qui est un géocroiseur, et on va aller percuter...
Pour tester la manip,
c'est un tout petit truc, hein, on va rien faire, on va voir comment on va de l'énergie, de l'impact, est-ce que vraiment est-ce que c'est un choc, à quel point le choc est élastique ou inélastique, c'est-à-dire à quel point ça va donner des déformations, enfin, en tout cas on y réfléchit là-dessus, mais c'est des toutes petites missions parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc voilà, enfin, moi c'était aussi pour dire ça, c'est que la science, on se bride dans nos raisonnements technologiques, scientifiques, parce qu'on sait que on peut pas imaginer des coûts de projet gigantesques, parce qu'on est ramené par la vision politique à des choses, ça tue toute l'ambition, toute la création.
Alors justement, par rapport aux politiques, ce sera peut-être le mot de la fin, parce que je vois quand même l'heure qui tourne là. Jean-Louis, par rapport au climat, donc même si tu nous as peint une vision assez apocalyptique du climat, qu'on va retrouver bien sûr dans la science-fiction, hein, soit je pensais à Sécheresse, voyez, au Monde englouti de Ballard, je me dis, est-ce qu'il y a un corollaire quand même à ce réchauffement climatique ou à ces changements climatiques?
Alors, il y a une nouvelle science qui s'appelle la géo-ingénierie, dont vous avez probablement entendu parler, avec deux écoles, des gens responsables, je dirais, scientifiques, et puis des apprentis sorciers, de l'autre côté. Voilà, on va commencer par ce que je connais le mieux, donc des gens responsables. Alors, pour essayer de réduire ou minimiser l'impact du réchauffement, il y a deux façons de faire. Donc, essayer de piéger le CO2, c'est une façon, essayer de renvoyer plus de flux solaires vers l'atmosphère, par exemple. Bon, si on a des nuages, par exemple, ce qu'on appelle l'albédo, hein, qui réfléchit, on va avoir plus de nuages, ça réfléchit plus. Bon, c'est à moins de nuages, effectivement, il y a plus d'absorption, on est plus rayonnant au niveau de la surface, et il y a plus d'absorption. Alors, nous, scientifiques, par exemple, ce qu'on observe et ce qu'on mesure, c'est que le forçage radiatif, les cultures, typiquement, on conseille, en hiver, au lieu d'avoir des sols nus, il vaut mieux avoir des cultures intermédiaires. Voilà, pas laisser les sols nus parce que, justement, ça va avoir plus de réflexion et voyons, moins d'absorption. Alors, c'est des mesures qui ont des directives européennes, s'appellent CIPAN, culture intermédiaire piège à nitrate, parce qu'en même temps, ça permet de piéger nitrate, éviter que cela aille dans le sol, de mettre des vitations. Donc, ça, c'est des mesures
responsable, faisable. Je pense que, alors maintenant, je sais que l'Union européenne, de façon incitative, donne des subventions aux gens qui ont cette initiative, mais je pense que déjà le monde agricole responsable a déjà compris que c'était dans son intérêt de faire cela. Après, il y a aussi le piège du CO2 par les océans. On sait que le phytoplancton est peu piégé, donc, alors bon, c'est pas volo, c'est pareil, ça va saturer rapidement, ça peut aider un petit peu. Alors, pour faciliter ça, on a imaginé envoyer mettre de la limaille de fer, par exemple, parce que ça, effectivement, ça facilite l'absorption de CO2. Alors ça, c'est relativement raisonnable. Après, bon, vous avez les projets de la NASA. Alors là, c'est ce qu'on appelle les chemtrails. Vous avez peut-être vu les traînées chimiques, alors, qui paraît, bon, il y a des oeufs là-dessus, mais bon, qui bombardent l'atmosphère avec des particules de soufre pour essayer de reproduire un petit peu ce qui ferait des volcans. Alors, ils sont partis du soufre. Maintenant, ils parlent d'oxyde de titane, par exemple. Et on n'est pas loin de particules en aluminium. Donc, vous voyez un peu ce que ça représente. Sachant qu'idéalement, il faudra avoir des petits miroirs dans l'espace qui réfléchissent le flux solaire. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont les projets de la NASA aussi? C'est dévier un peu la Terre, parce qu'effectivement, la mettre à l'autre endroit. Hein, bouger. Voilà, parce que bon, il y a les fameux paramètres climatiques de Milankovitch. Vous savez que la Terre, il y a l'excentricité, hein, elle a l'orbite elliptique, bah, donc il y a l'obliquité dont on a déjà parlé, et puis il y a la précession, hein, c'est plutôt une toupie qu'une sphère. Et notamment quand il y a des gros séismes, par exemple, des tsunamis, et bien, important, la distribution des masses va jouer, effectivement, ça a une petite incidence. Voilà, donc la précession, l'obliquité, puis l'excentricité, voilà, et puis ils se sont dit, ben, finalement, si c'est trop chaud, voilà, essayer de pousser la Terre un peu plus loin, un endroit où on pourra maintenir un climat. Voilà, je ne sais plus comment, avec récupérer la fonte de l'astéroïde, enfin, c'est des trucs d'avoir fait un test.
Oui, ça, c'est
la science fiction.
C'est voilà, le Gun Club, ça. Hein? C'est le Gun Club.
C'est le Gun Club.
C'est
voilà, à peu
bien.
Près.
Bien. Bah, écoutez, vu qu'il est quand même 11h05, donc on va remercier nos intervenants, parce que vraiment, c'était. D'abord, vous nous avez apporté beaucoup d'informations, plus scientifiques peut-être que science-fictionnelles, mais. C'est quand même intéressant parce que ça nous permet d'avoir à nous une vision finalement très claire sur ces très très grandes questions. Voilà, donc merci à vous et bonne.